Sur 98, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 17 janvier 2007 de 18 à 21h, en différé jeudi 18 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télémopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à l'adresse suivante contact@radiocourtoisie.com.
Eh bien, bonsoir à tous, chers amis auditeurs. Il n'est peut-être... Bonsoir Victoria.
Bonsoir Daniel.
Il n'est peut-être pas trop tard dans l'année pour souhaiter à nos auditeurs une heureuse et sainte nouvelle année.
Oui,
je crois qu'on peut le faire.
Jusqu'au 31 janvier.
On pourrait le faire tous les jours, parce que c'est vrai que tous les jours sont des jours de fête, Radio Courtoisie, comme chacun le sait. Victoria, je suis content de vous avoir à mes côtés.
Enfin, et moi donc.
Vous êtes jolie, regardez, toute mignonne et tout.
Ah, bah c'est bien. J'aime m'entendre dire que je suis mignonne.
Beaucoup d'auditeurs, quand ils me rencontrent, disent est-ce que Madame Victoria est là?
Oh, Madame Victoria.
Alors, elle sort très peu. Non, elle sort pas.
C'est vrai, elle sort pas beaucoup.
Bon, alors, pour cette nouvelle année, j'ai pris des résolutions. Extrêmement ferme.
Une fois n'est pas coutume.
Non, je prends souvent des résolutions. Le problème, c'est que je les tiens rarement. Ça, c'était la voix de Pierre Voutert, voyez-vous, qui veut toujours la ramener avant qu'on lui donne la parole. Bon, très bien. J'ai pris la résolution que nous allions structurer différemment ces libres journaux. C'est-à-dire que dans la première partie de l'émission de 18h30, de 18h à 19h30, nous aurons une partie plutôt magazine, ce sera le magazine, avec des séquences courtes, beaucoup d'invités différents, on parlera de musique, d'associations, de défense de la vie, de tant de choses, et de revues qui paraissent, et de tant de choses comme ça. Puis la seconde partie de l'émission sera consacrée à ce qu'on appelle un dossier. Alors, ce soir, je vous annonce tout de suite que le dossier de cette soirée sera consacré à un thème important, que j'ai titré « Nécessité et difficulté de la restauration de la liturgie traditionnelle dans les diocèses de France ». Nécessité et difficultés au pluriel de la restauration de la liturgie traditionnelle dans les diocèses de France. Et que nous aurons le bonheur d'entendre ce soir Monsieur l'abbé Grégoire Cellier, qui est déjà présent pour cette première partie.
Bonne soirée à tous les auditeurs et bonne année 2007, pour l'an de grâce 2007.
Voilà, et vous, monsieur l'abbé, qui vous plaignez toujours que je ne vous reçois pas assez ou pas assez longtemps, là quand même ce soir vous êtes gratté quand même.
Il cumule.
J'admets 3 heures par semaine de votre part, minimum.
Alors, donc, notre ami Grégoire Cellier est donc prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Nous aurons également monsieur l'abbé Armand de Malleret, et qui est lui le secrétaire général de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Nous aurons M. l'abbé Benoît Jaïr, qui lui est prêtre de l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre. Et nous aurons M. l'abbé Guillaume de Tarnoirne, qui lui est prêtre de l'Institut du Bon Pasteur. Donc nous avons réuni là les 4 fraternités, enfin les 4 associations sacerdotales de prêtres attachés à la liturgie traditionnelle, avec lesquelles nous allons donc discuter de ce thème vraiment préoccupant. Nécessité, je précise bien parce que j'ai beaucoup salivé pour faire le titre. Nécessité et difficultés de la restauration de la liturgie traditionnelle dans les diocèses de France. Voilà, ça ce sera pour la seconde partie de cette émission. Je dis tout de suite aux auditeurs que le 7 février prochain, qui sera le prochain libre journal que je dirigerai en nom et place de Monsieur de Bekech,
3 heures
sera 3 heures également, et sera le dossier sera centré autour du film Apocalypto de Mel Gibson, avec M. Martin Pelletier, avec M. Michel de Gégère et d'autres personnes de cette qualité. On va passer une très bonne soirée et j'espère qu'on passera une soirée aussi bonne que le plaisir que j'ai pris à voir ce film, qui est excellent, très très bon film. Dans cette première partie de l'émission, nous recevons Pierre Wouters, qui est le délégué général de l'association Laissez-les vivre, pour faire une... Ce n'est pas une piqûre de rappel, c'est simplement un petit rappel que dimanche prochain, 21 janvier, une grande manifestation pour la défense de la vie se déroulera dans les rues de Paris. Puis nous aurons par téléphone André Fangeau, qui est le président d'une association pour la sauvegarde de l'église d'Arc-sur-Tille, en Côte d'Or. C'est très très intéressant. Et là, vraiment, depuis 91, cette association se bat bec et ongles pour sauver ce monument du patrimoine, qui est non seulement un patrimoine architectural, mais aussi un patrimoine religieux, que la municipalité veut écrouler. Alors que quelques réparations d'une somme modique coûteraient beaucoup moins cher que la destruction de l'église. Puis nous aurons notre ami Grégoire Cellier, qui est présent ici ce soir, avec lequel nous parlons du dernier numéro de Fidélitaire et notamment, essentiellement d'ailleurs, d'un dossier très intéressant sur immigration, un regard chrétien. C'est un bon dossier, je le dis tout de suite. Et puis nous aurons par téléphone Bruno Larobière, qui est rédacteur en chef du mensuel Le Choc du Mois, dont le numéro 8 vient de paraître, sur le thème « Les femmes, des femmes en politique, des mecs comme les autres, point d'interrogation ». Ce sont les titres à la Choc du Mois, mais c'est très intéressant.
Je l'ai même lu. Il y a deux interviews très intéressantes d'Edith Cresson et de Marine Le Pen.
Oui, c'est très extraordinaire, parce que c'est deux choses différentes et c'est tout à fait passionnant. Alors, voilà le programme de ce soir. Pierre Wouters, donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation ce soir.
Merci à vous, Daniel.
Pour nous parler de cette manifestation du 21 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier.
Voilà. Bah, effectivement, je vais d'abord souhaiter nos meilleurs voeux de bonne et sainte année à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, et également une bonne année à Radio Courtoisie, après cette année difficile du départ de Jean Ferré. Je voulais vous dire que nous aidons, dans la mesure du possible, Radio Courtoisie, puisque nous vous envoyez une
nous l'avons vu, nous avons été sensibles.
Et je voudrais dire aussi que nous essayons de régulariser notre situation d'auditeurs clandestins, et voilà donc la cotisation qui correspond, selon, je crois, ce qu'il est souhaitable, de payer la redevance correspondant au niveau de la redevance
de la télévision,
116 euros.
Eh bien écoutez, voilà. Je vous en remercie beaucoup donc, au nom de... Je remercie beaucoup l'association Laissez-les vivre au nom de Radio Courtoisie.
Alors je voulais simplement vous dire que oui, merci de nous remercier, mais c'est nous qui vous remercions parce qu'en fait, il ne s'agit pas là d'un détournement de fonds, il s'agit là de la réalisation de notre objet social. Radio Courtoisie nous aide à réaliser notre objet social, donc nous aidons Radio Courtoisie à nous aider à réaliser notre objet social. C'est tout à fait cohérent.
Et ben voilà,
ça n'est pas parce que c'est pas du copinage, parce que on aime bien certaines personnes à Radio Courtoisie.
Non, parce que là, le chèque n'est pas, j'ai vu que le chèque n'est pas libellé à mon nom.
Il n'est pas votre nom, d'ailleurs.
C'est marqué Radio Courtoisie, voilà. Donc là, je ne pourrais pas faire grand-chose, malheureusement.
Bon, je pense qu'il est encore temps pour payer sa cotisation.
Toujours, il est toujours temps.
Pour 2007, je pense.
Donc, tous les jours, et merci beaucoup de ces étrennes pour Radio Courtoisie. J'espère qu'elles seront suivies de beaucoup d'autres de nos amis auditeurs.
Alors, c'est très modeste. Je sais qu'il y a des dons beaucoup plus importants, mais voilà, on est un peu au-delà des 40 euros du minimum syndical.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières de diamants.
J'espère que ça aidera quand même un petit peu Radio Courtoisie.
Merci Pierre Wouters, merci infiniment. C'est important que nous soyons aujourd'hui le 17 janvier, puisque précisément vous avez aujourd'hui l'association Laissez-les vivre a publié un petit communiqué, puisque 17 janvier 1975, c'est le premier avortement légal, entre guillemets, opéré en France après le
par le docteur Papiernik à l'hôpital Béclair de Clamart, effectivement. Il faut savoir que tout ça est allé très vite, puisque le 26 novembre, c'était le discours historique, si l'on peut dire, de Simone Veil, secrétaire d'État à la santé du gouvernement Chirac, discours fleuve, etc., et qui est quand même resté un peu dans les mémoires, en faisant pleurer dans les chaumières, avec d'ailleurs des arguments à peu près tous aussi faux les uns que les autres. Le 20 décembre, c'était le vote définitif. Il y a un recours au Conseil constitutionnel. Donc, le Conseil constitutionnel rend sa décision le 15 janvier. Et le 17 janvier, le président de la République, Giscard d'Estaing, promulgue la loi. Donc, tout ça s'est passé en moins de 2 mois. C'est assez extraordinaire pour une loi comme ça. On a su après, quelques années plus tard, le sénateur qui y avait nous a indiqué que, à la virgule près, tout avait été rédigé dans d'autres instances.
plus discrète.
Depuis déjà de nombreux mois. Oui. Donc, vous voyez, parce que regardez la navette parlementaire entre, pour n'importe quel texte de base. Là, par exemple, vous voyez, pour le droit opposable au logement, où apparemment, et bon, c'est un texte qui est peut-être difficile à appliquer, mais on parle d'un délai de 2 ans. Pour l'appliquer, pour qu'il soit promulgué, vous voyez.
En 2008, je crois,
un délai de
décembre 2008.
Et voyez, et pourtant, il y a unanimité. Or, il faut se rappeler quand même qu'en 1974, il n'y avait pas unanimité du tout, puisque c'est une majorité socialo-communiste centriste qui a voté, et le RPR, avec fort heureusement Jean-Foy et Michel Debré, avait réussi, pratiquement, il y a extrêmement peu de députés, on les compte sur le doigt d'une main, les députés RPR qui ont voté. Donc ça a été fait avec Jean-Luc Canuet, garde des Sceaux, et sa théorie des deux consciences. Vous savez, ça c'est extraordinaire. C'est moi, bien sûr, je suis catholique, vous comprenez, bien sûr, je suis contre l'avortement, mais par contre, en tant que garde des Sceaux, voilà. Moi, je trouve pour mes enfants, pour ma famille, ce serait pas bien l'avortement.
Catholique en privé, mais pas catholique pour les autres,
je trouve que c'est bien. Pour les autres, pour que les enfants des autres se fassent avorter, ou voilà, ça c'est très bien. Alors ça, c'est évidemment, on sait ce que ça a donné.
Bah le bilan, oui, sache le chiffre depuis 1975.
235 000 avortements en moyenne. Là, je ne compte bien entendu, Xavier Dore vous dirait qu'il faut compter également les avortements par stérilet, par pilule, etc. Alors là, on sait par millions. On ne sait pas. Hein. Mais donc, je compte les avortements simplement donnés par l'INED et par l'INSEE. Une moyenne de 235 000 sur 32 ans, ben nous en sommes à 7 520 000. C'est-à-dire qu'on va approcher bientôt les 8 millions. C'est quand même pas une mince affaire. Je vais dire aussi que on crie cocorico là tous les ans au mois de fin janvier en disant c'est extraordinaire la France et le taux de fécondité extraordinaire. Je vais simplement dire qu'en 1971, alors pourquoi je prends 1971? Bon, il y avait 881 000 naissances. Pourquoi 71? Parce que en 72, dès 72, Tétinger est garde des Sceaux et la chancellerie donc donne des fait plusieurs circulaires, dont deux au moins, pour demander de ne plus poursuivre dans les actes d'avortement. Donc, en fait, les naissances baissent dès 1972. Et c'est pas aussi brutal que ça. Donc, 72, 73, 74, et puis 75, il y a encore une chute. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une chute terrible, hein, puisqu'en quelques mois, on tombe de 881 000, pardon, à 1976. C'est-à-dire, 1976, c'est intéressant parce que c'est l'année pleine, si l'on peut dire, de l'avortement. C'est-à-dire, inutile de vous dire que le 17 janvier 75, bon, tout n'était pas prêt dans tous les hôpitaux et avortoirs de France pour avorter. Bon. Donc, ça s'est fait progressivement. En 1976, on tombe à 720 000. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 ans, le nombre de naissances, pas la fécondité, excusez-moi, tombe à de 160 000 naissances en l'espace de 5 ans. Et aujourd'hui, eh bien, on est en 2006, les chiffres ont été donnés par l'INSEE hier, 831 000 naissances. Donc, on peut dire qu'il manque encore 51 000 naissances. Et on peut dire aussi, bon, je crois qu'il y a un communiqué d'ailleurs de Jean-Marie Le Pen. Et en plus, bien entendu, inutile de vous dire que depuis 30 ans, il y a une population immigrée. Alors, il faut savoir qu'on n'a plus le droit de publier les chiffres. Hein, donc, je ne peux pas vous le dire. Mais manifestement, on sait très bien que la population maghrébine ou africaine qui vit en France, peu importe qu'il soit clandestin, pas clandestin, régulier, pas régulier, etc., a une fécondité qui est beaucoup plus élevée, qui est plutôt de l'ordre au moins de 3, peut-être de 4 même. Donc, vous voyez ça. La population française serait plutôt en fécondité aux alentours de 1,5 et 1,6. Et on arrive à 2 parce qu'il y a une forte population immigrée. Voilà. Donc je dis quand même qu'aujourd'hui, on crie cocorico, mais on a perdu encore, par rapport à 1971, encore 50 000 naissances par an. Ça, c'est vraiment considérable.
Avec une population qui s'est accrue.
L'indice de fécondité, qui était de 2,5 en 1971, est aujourd'hui de 2. C'est considérable.
Tout juste 2.
Et encore, moi, j'ai tendance à penser que quand un chiffre comme ça tombe tout rond, je serais pas surpris qu'il soit plutôt de 1,95 ou 1,85.
Donc, de toute façon, c'est insuffisant pour renouveler les générations.
On est encore en dessous du renouvellement des générations. Le taux de renouvellement en 1971 était de 2,10. Il est descendu aujourd'hui à 2,07 parce que tout simplement il y a moins de mortalité infantile. Mais aujourd'hui, un taux de fécondité de 2, savoir, ne renouvelle pas les générations. La presse, j'ai acheté toute la presse aujourd'hui, fait des gros titres. Et dans ces titres, alors on voit des titres merveilleux, etc. Puis quand on voit dans le détail, on voit quand même, ben oui, on est quand même encore en dessous du taux de renouvellement des générations. C'est vrai que j'ai certains pays qui sont à 1,1. La Russie est à 1,1, 1,10 de taux de fécondité. Hein. C'est-à-dire qu'en 30 ans, la population disparaît. La Russie disparaîtra en 3 décennies. C'est simple. Voilà. Alors, ce bilan de la culture de mort, quel est-il? Mais je veux dire, tout ça n'est pas, bien sûr, fortuit. Je vais donner un exemple extrêmement simple. En 1950, le SMIC, à l'époque c'était le SMIC, c'est devenu le SMIC en 1960, c'est-à-dire qu'il est venu de croissance en 1970, pardon. C'est-à-dire un père de famille qui gagnait à l'époque l'équivalent de, qui gagnait 15 000 francs par mois. 15 000 francs, c'était des francs anciens, hein, donc 150 francs, si vous voulez, de 2001. Et avec 3 enfants, il doublait son salaire. C'est-à-dire qu'il percevait 15 000 francs de salaire minimum interprofessionnel garanti et il touchait 15 000 francs avec ses 3 enfants d'allocation familiale. Aujourd'hui, en 2007, la personne qui gagne le SMIC, le père de famille, avec 3 enfants, il gagne donc 1 000 euros, ce qui évidemment n'est pas beaucoup aujourd'hui. Et avec ses allocations familiales, eh bien, il gagne 200 euros. En plus. C'est-à-dire qu'il gagne 1200 euros, alors que si on avait suivi un indice à peu près proportionnel au coût de la vie, au SMIC, ben, on serait à 2000 euros. Vous savez, il y a des familles de 3 ou 4 enfants, de 3 enfants. Restons en 3 enfants, parce que c'est quand même le nombre de familles nombreuses le plus courant. Eh bien, c'est pas beaucoup. Hein, voilà. Autre chose, le désir d'enfant depuis 30 ans est à peu près identique. Il est de 3 enfants par femme. Une femme en moyenne souhaite 3 enfants. Bien sûr, il y en a qui en veulent 1, d'autres qui en veulent 2, d'autres qui en veulent 4, d'autres qui en veulent 6. Bon. Mais la moyenne, c'est 3. Et puis, la réalité, c'est 2 enfants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Alors, Simone Veil parlait de discrimination dans les classes professionnelles. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que, bon, aujourd'hui, grosso modo, pour faire simple, les gens riches peuvent avoir des enfants, parce que ça coûte cher. Et puis, les gens qui sont moins riches, ou voire qui sont pauvres, ou voire qui sont même dans la misère totale, eh bien, ils n'ont pas d'enfants, parce que ça coûte trop cher. Voilà. Voilà la réalité.
Alors, il y a un problème de revenus, puis il y a aussi un problème de logement. Il est sûr que les appartements tels qu'ils sont, les rares appartements qui sont disponibles, ne donnent pas la possibilité d'avoir de nombreux enfants. Hein. Vraiment, quand vous êtes marié, un couple marié, vous avez le droit à 2 ou 3 pièces dans des HLM, encore 3 pièces si vous avez arrivé à avoir votre dossier par des voies pas très officielles.
Un petit peu appuyé,
mais, disons. Ça laisse quand même pas grand-chose, ça laisse, disons, une chambre pour... Bon, le bébé, il peut vivre dans la chambre de ses parents tant qu'il est petit, mais après, il va lui falloir sa chambre. Puis si le petit frère ou la petite soeur arrive derrière, bon, ça va, juste tant qu'ils sont petits, ils peuvent vivre ensemble, mais après, c'est plus possible. Il y a un moment où les études vont commencer, à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans, il va falloir que les gosses, quand même, arrivent à s'isoler un peu pour faire leurs devoirs, alors que le plus petit, il va jouer de la trompette ou du tambour, bon. Et puis, pour ceux qui veulent des enfants, c'est extrêmement compliqué. Ceux qui veulent des enfants aujourd'hui, ils sont devenus des véritables Robin-Michel. Je dis pas ça, j'ai rien contre les Robin-Michel, mais ça veut dire qu'ils sont itinérants, parce qu'il faut toujours trouver un appartement plus grand. Et dans les HLM, moi, j'ai le cas d'un ami comme cela, d'ailleurs, je donnerai pas son nom, mais il fait une émission de temps en temps sur Radio Courtoisie, qui a déjà, je crois, qui a 4 ou 5 gosses. Il attend un heureux événement, là, pendant quelques mois. Ce sont des jumeaux. Donc, ils vont se retrouver avec 7 gosses dans un appartement, avec donc les parents, ça fait 9, avec un appartement qui peut décemment supporter 7 personnes, mais pas 9 personnes. Bon, et bien, pour trouver un HLM où on peut mettre 9 gosses, je vous assure que c'est extrêmement compliqué.
Alors là, il faut réunir en général deux appartements qui sont côte à côte. C'est ce qu'on fait plusieurs amis, mais c'est pas facile, ça
c'est
prend
très,
parfois
très difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de politique, il n'y a pas de politique sociale, il n'y a pas de politique pour la famille, il n'y a pas non plus de politique.
Ah bah, tiens, dans les appartements, les appartements dans les années 60 et 70, on construisait des grands HLM de 100, 120, voire 140 ou 150 mètres carrés. Aujourd'hui, ça dépasse jamais 100 mètres carrés.
C'est
prévu pour 3 enfants. Je voulais dire aussi que dans cette culture de mort dans laquelle nous vivons, je vais citer 2 petits exemples. En novembre et en décembre, il y a successivement 2 informations un peu contradictoires, puisque dans un cas, on disait que le premier sondage disait que 3 médecins sur 10 refusaient de soigner les patients bénéficiant de la couverture maladie universelle. Et puis après ça, on a dit finalement, 15 jours plus tard, on a dit que c'était 1 sur 10, ce qui est déjà beaucoup. Eh bien, je vais vous citer le cas. Ça se passe dans une clinique privée du Calvados. À la fin de la consultation, une consultation d'échographie, une mère qui attendait son 4e enfant, l'obstétricien, quand elle a sorti sa carte et qu'il a vu qu'elle était à la CMU, l'obstétricien a fermé la porte, l'a séquestrée et l'a appelée. Et elle a dû appeler son mari qui était enfin dans la salle d'attente pour faire 120 km aller-retour pour chercher le chéquier pour payer parce qu'il refusait de prendre la prise en charge CMU. Alors c'est ça.
Au motif qu'elle avait déjà.
Non, c'est au motif que les praticiens ne veulent pas respecter les systèmes de remboursement avec ce qu'on appelle la CMU, la couverture maladie universelle, qui est un petit peu la sécurité sociale des pauvres, si on peut dire. Oui. Hein. C'est-à-dire quand quelqu'un est au RMI, eh bien depuis déjà un certain temps, c'est la CMU, c'est plus la Sécu. Alors c'est de toute façon il y a des péréquations. Le praticien il est sûr d'être remboursé. Ça prend un petit délai, si vous voulez, ça prend disons peut-être un mois ou un mois et demi ou deux mois, voilà. Alors ça c'est la culture de mort, vous voyez. Ça c'est la culture de mort. Un autre exemple en plus qui s'est passé dans ma proche famille, donc je peux le citer. Une maman qui est enseignante, pas très loin d'ici d'ailleurs, école très chic. Elle attend un heureux événement, enfin qu'elle croit. Elle annonce à sa directrice. Réponse. Je croyais que vous en aviez déjà un. Vous voyez, ça remonte déjà à quelques années. Vous voyez, alors ça c'est la culture de mort, la culture que Madame Simone Veil nous a imposée depuis 35 ans.
Alors vous dites pas dans votre communiqué d'aujourd'hui là, mais vous dites elle sera probablement nommée présidente du comité de soutien au candidat Sarkozy.
Oui, c'est pas encore sûr parce qu'elle est encore au Conseil constitutionnel, mais enfin on la pressent, si vous voulez. D'accord. Et j'avoue que moi je vois des réponses. J'ai envoyé ce communiqué à quelques centaines de personnes. J'ai des réponses extrêmement négatives. J'ai une réponse là tout à l'heure qui ça m'a stupéfait. Mais j'admire beaucoup Madame Veil. Et c'est un bon catholique. Hein. J'admire beaucoup Madame Veil. Voilà. Et je voulais vous dire aussi, il y a un petit peu d'espoir parfois, parce que je crois que vous l'avez montré, j'ai plus la carte là, si je l'ai.
Ah oui, la petite image dont on avait parlé.
La petite image, je vais vous la montrer quand même, mais surtout je vais vous lire, voilà cette petite image, monsieur l'abbé, je vous la montre. C'est marqué donc zéro alcool pendant la grossesse, c'est un panneau, une carte postale, mais il y a aussi des formats affiches, affichettes, etc., qu'on trouve dans tous les cabinets médicaux, chez tous les praticiens, dans tous les domaines, hein, pas seulement chez les gynécologues, obstétriciens. Et alors c'est un panneau, on voit une jeune maman en train de boire un verre, bon, je trouve qu'on aurait plutôt le ventre
arrondi,
hein, c'est... Mais alors ce qui est extraordinaire, c'est que derrière on lit la chose suivante. Je vais vous lire juste les trois lignes. La mention, la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l'enfant.
De l'enfant qui n'est pas né.
Ils disent pas la santé du tas de cellules. Ils disent pas la santé de l'embryon. Ils disent pas la. Vous voyez, la santé de l'enfant. Alors c'est un enfant. À l'enfant, ou
c'est une chose.
Alors, il y en a qui disent c'est une chose, parce que ce qui se passe, si vous voulez, c'est que depuis 30 ans, on a tellement répété aux femmes que ce qu'elles avaient dans leur ventre, c'était, bon, je sais pas trop ce que c'était un tas de cellules, c'était un amas de cellules, hein, une extension de leur chair. On a aujourd'hui le professeur Serge Bornstein, enfin, je dis aujourd'hui, ça remonte à déjà 3 ou 4 mois, hein, c'était dans le Figaro, qui est psychiatre, qui est criminologue, expert judiciaire national, donc c'est quand même pas n'importe qui. Il affirme, certains infanticides sont vécus froidement par les mères comme de simples IVG tardives. Elles estiment avoir tout pouvoir et tout droit sur ce qu'elles considèrent comme une simple extension de leur chair. Et vous avez vu le nombre d'infanticides qu'il y a eu, l'affaire Courgeot, trois enfants exterminés, deux en Corée, un près d'Orléans, il y a eu l'affaire Dufay. Madame Dufay dit, c'était une chose pour moi, je n'ai pas pensé que ça pouvait être un enfant. Il faut savoir que le délit d'infanticide, Et moi, je ne sais plus si c'était un crime ou un délit. Enfin, toujours est-il qu'il a été supprimé. Il était dans l'ancien code pénal, abrogé en 94, dans la rubrique crimes et délits contre les particuliers, des crimes et délits contre les personnes. Et il est remonté à 1810.
Hein. Pierre Boutère, je ne voudrais pas vous presser, mais parce que nous avons encore beaucoup d'invités.
Simplement dire que le nombre d'infanticides augmente et qu'il se passe exactement
le contraire. C'est une bonne information que vous nous donnez.
Il se passe le contraire, simplement, de ce qu'on avait dit. On ne verrait plus jamais de bébé dans les poubelles. Ben, et c'est exactement le contraire. On voit non seulement dans les poubelles, mais dans les congélateurs, au fond des jardins, des puits, des étangs, voire même dans les toilettes ou les égouts. Ouais. Et donc, on nous a menti sur toute la ligne. Voilà.
Alors, dimanche 21 janvier, le collectif 30 ans ça suffit, qui avait été institué il y a donc 3 ans au moment du
30 ans, presque 4 ans, parce qu'on avait commencé il y a
2004 il me semble, hein. Il y avait quelque chose en 2004, 2005, 2006.
Non, c'était 2005 et 2006, mais on avait commencé nos réunions en 2004.
Donc il y a eu deux manifestations, c'est la troisième manifestation qui est, bon, c'est donc un collectif, beaucoup d'associations.
Alors il y a une dizaine d'associations, je les cite rapidement: Lac-Pervis, Choisir la vie, Comité pour sauver l'enfant et naître, bon, Laisser les vies rester sur terre, bien sûr, Promouvoir, Renaissance catholique, Rivage, SOS tout petit, La Trêve de Dieu, avec en plus de nombreuses, très nombreuses associations locales au niveau départemental. Par exemple, il y a l'écart en provenance de Nantes ou de Tours. Si les auditeurs nous écoutent par internet ou s'ils ont de la famille là-bas, il y a l'écart, il y a encore des places à Nantes ou à Tours. Et puis le soutien de l'Union pour la vie, qui nous soutient déjà depuis un certain temps. Et puis le soutien des associations familiales catholiques, ça qui n'était pas le cas les deux premières années. Il y a aussi la CIM qui nous soutiendra. Pour les personnes qui veulent, qui nous disent, écoutez, vraiment votre musique, c'est de la musique à se gratter, etc. Eh bien, écoutez, il y a au sein du cortège, en deuxième ou troisième partie du cortège, il y a un rosaire pour la vie animé par SOS Tout Petit, le docteur d'or. Hein, donc, il y en a pour tous les goûts.
Et alors, vous avez, cette année, vous avez également le soutien de deux évêques, me semble-t-il.
Alors, trois évêques, même, puisque nous avons Mgr Ray, entre-temps, donc il y a Mgr Bagnard, Mgr Centaine, évêque de Vannes, et Mgr Ray, évêque de Toulon. Mgr Bagnard, c'est l'évêque de Arbelay, c'est ça. Hein. Oui. Voilà. Donc, on a trois évêques qui nous soutiennent. Et puis, on a bien sûr un comité de soutien qui est très important. Mais ça, trois évêques.
C'est très bien.
Parce que précédemment, si vous voulez, on avait Mgr Loucheur qui est évêque émérite.
Oui,
de,
voilà.
Bon, voilà, c'était. Mais maintenant, on a trois évêques en titre. Et pas n'importe lequel. Voilà.
Alors, c'est dimanche 21 janvier, troisième marche pour la vie du collectif 30 ans, ça suffit. Le départ est à 14h30, place de la République. Et enfin, on va vers où alors là exactement?
Vers l'opéra.
Donc de la République à l'opéra. Donc
c'est pas dur. La preuve, je le fais moi-même. Donc, pour vous dire, hein, c'est pas le pèlerinage de Chartres. Hein.
Bah, bon,
il y a à peu près une petite heure de marche.
Il fera très beau. Ce sera sec et frais. Donc
il va faire sec, un petit peu froid. Faudra se couvrir. Et je veux dire aussi, très important, c'est que surtout, il n'y a pas de danger. On est très bien protégé. Il n'y a jamais eu de danger, de problème ni en 2005 ni en 2006. On est très bien protégé par les compagnies républicaines de sécurité, par les gendarmes mobiles. Et il n'y a pas de problème. Les enfants, ils ont tous... venez en famille. Si une famille, par exemple, de 4 ou 5 enfants, ne venez pas seul, papa, avec un grand garçon. Venez tous les 7. Hein.
Alors, je donne l'association adresse de l'association Laissez-les vivre, SOS Future Mère, boîte postale 111, 75 463, Paris, CEDEX 10.
Oui, vous avez tout sur notre site internet aussi.
Boîte postale 111 75 463 Paris CEDEX 10. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le secrétariat de l'association au 01 48 78 21 64. 01 48 78 21 64. Et pour ceux qui ont l'internet, allez voir le site Laissez-les vivre en un seul mot. Laissez-les vivre. free.fr2e.fr laissez-les-vivre.free.fr. Voilà. Merci Pierre Routher. Je me tourne vers Victoria. Est-ce qu'il y a des messages qui ont quelque chose à voir avec ce dont nous venons de causer?
Oui.
Alors allons-y vite, nous avons 3 minutes.
Il est dommage que les associations pro-vie et royalistes n'aient pas pu s'entendre pour que les messes soient combinées et que la fin du parcours rejoigne la concorde.
Bah, écoutez, la plupart des messes pour Louis XVI sont le matin. Alors, donc, je ne vois pas trop de difficultés. On peut très bien aller à la messe à 10h, à 10h30, et puis ensuite à 14h30, se retrouver place de la République pour faire la manifestation. Donc, évidemment, c'est toujours compliqué, mais il n'y a qu'un seul dimanche autour du 20 janvier chaque année.
Je vous dis franchement, personnellement, j'aurais préféré le 28, mais vous savez, quand on est une douzaine d'associations, il faut faire des...
On est obligé de faire des compromis.
Des compromis pour arriver... Autrement, si chacun dit, ben non, écoutez, nous, c'est le 28, ou alors c'est rien, ben il se passe rien, si vous voulez.
Oui.
Donc ça, c'est assez regrettable. Je prie nos amis monarchistes de nous excuser.
Pierre.
Le politiquement correct qui fait cocorico sur le taux de natalité en France, dans ce cas, on ne nous montre que des bébés blancs à la télé, alors qu'Azouz Begag avoue qu'il y a 15 millions de personnes issues de l'Afrique subsaharienne. On sait bien qui fait le plus d'enfants en France. Le problème du logement, les clandestins ont eu droit à des appartements tout neufs, alors qu'il y a des Français qui travaillent et qui, eux, n'ont pas de logement.
Oui.
Ne prenez pas cet exemple sur les RMistes. Par contre, le loyer est payé à 80% et les 20% sont rajoutés par la ville de Paris. Les cantines sont gratuites, etc. Je sais de quoi je parle car je suis assistante sociale. Et selon Jean-Paul Gourevitch, auteur notamment de La France africaine, les femmes africaines en France, qui obtiennent souvent et vite la nationalité française, ont une fécondité selon l'ethnie de 4 à 6 enfants par femme. Avec Jacques Renard, Pierre Chaunu, en 2002, a annoncé que la Russie perdrait 50 millions d'habitants en 40 ans.
En 40 ans, oui. La population va
diminuer. C'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure.
Merci Pierre Wouters, merci beaucoup Victoria pour ces messages, merci aux auditeurs de nous avoir encore envoyé un gros paquet de messages, et nous passons donc à la deuxième partie de cette première partie. J'ai la joie d'avoir au téléphone, moi j'espère qu'il est là, André Fangeau.
Oui,
vous êtes au téléphone. Bonsoir André Fangeau, je suis content de vous avoir. Vous êtes président de... Vous êtes un jeune retraité, j'en suis sûr, à votre voix ça s'entend, et vous êtes président d'une association qui s'appelle UEPA. Pourriez-vous nous dire exactement ce dont il s'agit? UEPA, le sigle est un peu mystérieux.
Alors, UEPA veut dire une église pour Arc-sur-Tille. Voilà, tout simplement. Pourquoi une? Parce que c'est ne pas s'opposer au départ à... un édifice qui pourrait être sauvé ou pas, donc nous avions pris cette position de dire il faut un lieu de culte pour notre ville.
Nous allons en parler. Alors, je précise à nos amis auditeurs, qui sont, comme beaucoup de Français, pas très souvent au fait de la géographie, qu'Arc-sur-Tille est une petite ville de 2500 habitants, qui est située, enfin moi je suis très, je suis doctus, comme on dit, monsieur l'abbé, doctus cum libro.
Cum libro.
Cum libro, c'est ça, parce que je lis absolument mes fiches. Mais voilà, c'est une petite ville qui se trouve à 12 kilomètres à l'est de Dijon.
Oui.
Alors c'est semi-rural, il y a plutôt c'est rural enfin votre.
C'est champêtre avec des lotissements où les gens à partir desquels les gens vont travailler en ville évidemment. Et puis un environnement très agréable, promenade, baignade avec des lacs, ski nautique, une base nautique très importante européenne d'ailleurs, et autre type de sport.
Alors vous aviez seul monument notable dans votre petite ville de 1500 oui. habitants, je répète, c'était une très jolie petite église. Elle est toujours là, Dieu merci. Donc c'est une église de la fin de la Restauration, donc de 1829, oui. tout à fait dans le style de la fin de la Restauration, c'est-à-dire néoclassique, oui. avec cette fausse inspiration gréco-romaine. Enfin oui, ces petites églises tout à fait sympathiques. Et je vais montrer d'ailleurs, parce que moi j'ai la photo ici, évidemment je ne peux pas montrer la photo aux auditeurs de Radio Courtoisie, c'est compliqué, mais je peux montrer aux autres invités dans le studio cette photo de la petite église. On en connaît pas mal de petites églises comme ça de l'époque, oui. de l'époque Restauration. Et puis, il s'est passé un petit incident, sans doute peut-être à cause de la construction d'un lac pour le ski nautique ou la baignade. Toujours est-il que cette église était construite sur des gros piliers de chêne qui reposaient dans une nappe phréatique. Et tant que le chêne est complètement immergé dans l'eau, en principe, il lui faut beaucoup de temps pour pourrir, mais si...
Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il reste intact.
Voilà, parce qu'on voit comment c'est à Venise. Mais c'est à partir du moment où le niveau de l'eau baisse et qu'une partie du chêne se trouve sortie de l'eau, que là commencent, évidemment, peuvent commencer des problèmes de pourrissement et donc des problèmes de soutien de cette église. Alors,
les
on pense que... Voilà, les fondations faiblissent. Donc, là, la municipalité avait, semble-t-il, décidé de quoi faire sur ce problème.
Alors, il est bon de rappeler, si je ne veux pas être trop long quand même, qu'elle a une caractéristique très particulière, c'est qu'elle a une terrasse au-dessus du clocher de l'ancien télégraphe Chaps.
Oui.
C'est un petit peu un caractère particulier. Et surtout, l'intérieur est unique, à savoir les piliers centraux décalés vers les montants latéraux.
D'accord.
Ce qui libère un espace. Alors, et des vitraux magnifiques, des fresques, enfin voilà. Et des menaces qu'elle présentait, en 89, l'église a été fermée au public par mesure de sécurité, ce que, évidemment, nous ne contestons pas. Et il s'est passé, vous l'avez constaté, en 89, nous sommes en 2007, il y a eu pas mal d'années d'écoulées,
oui, oui.
Et il sera un peu long de vous le développer. Ce qui est sûr, c'est que nous avons fondé notre association en novembre 91, et depuis nous nous battons.
Parce que le but, vous, c'est de protéger, de sauver le monument, qui nécessite évidemment un certain investissement, mais vous expliquez dans l'ensemble des documents que vous m'avez envoyés, de tout le travail que vous faites auprès des autres médias, que la destruction de ce petit chef-d'œuvre, qui est quand même toute une mémoire historique, culturelle et aussi cultuelle, c'est un lieu de culte.
Totalement,
bon,
totalement.
Donc l'église est toujours, on peut toujours y célébrer la messe, ça n'a pas été déconsacré.
Bon. Au public, on ne peut pas célébrer. célébrer. Hein. On célèbre dans une petite chapelle qui est l'ancien foyer, qui est tout à fait inadapté.
Tout à fait inadapté.
Et ça depuis 1989.
89. Oui. Mais vous expliquez que le coup de la... Alors, ils appellent pas ça, d'ailleurs, la destruction. Ils appellent ça la déconstruction.
C'est un terme pudique.
Bon, déconstruction. Moi, je veux dire, si on déconstruit pour reconstruire la même chose à côté, comme on a fait pour les temples égyptiens, justement. Ah, oui. Bon, oui. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais je ne pense pas que ce soit le projet de la municipalité. En fait, il s'agit de détruire cette église.
Purement et simplement.
Purement et simplement. Alors même que le coût de la destruction, semble-t-il, serait supérieur, d'après les analyses que vous avez fait faire, les études que vous avez
faites. Vous parlez de destruction, le coût de la destruction ne serait pas plus élevé que la reconstruction de notre édifice. Le problème se situe un petit peu ailleurs. C'est qu'évidemment, pour la remettre à neuf, je dis bien à neuf, restauration complète, une actualisation des chiffres le porte à 3 millions d'euros. Mmh. Ce qui est évidemment pour une municipalité impossible à financer. Or, ils ne veulent pas entendre une restauration par étapes, c'est-à-dire une mise en sécurité, et c'est tout là le problème. Parce que, en ce qui nous concerne, n'ayant pu obtenir une contre-expertise sur deux avis que nous avons fondamentalement contestés et sur lesquels la municipalité s'appuie, notre architecte préconise une mise en sécurité pour 324 000 euros, 325 000 arrondis euros, que nous finançons aux deux tiers.
C'est énorme.
Hein, c'est quand même énorme. Nous avons 95 800 euros en caisse et nous avons l'engagement d'un mécène pour 100 000 euros. Faites le calcul.
C'est magnifique, c'est-à-dire les deux tiers.
Pratiquement, voilà, ça
les
deux tiers sont rien au pouvoir public. Et la municipalité, je m'excuse du terme, nourrionnée.
Oui, d'accord.
Nourrionnée et veut vraiment démolir. Bon, j'ai d'autres éléments à vous apporter, mais je me tiens à votre disposition pour vos questions.
Ah bah, de toute façon, c'est pas la dernière fois qu'on se parlera à la radio. Vous pouvez être tranquille, Jérémy. Hein, vous pouvez être tranquille.
Je me tiens à votre disposition.
Quand je commence à m'intéresser à ce sujet, généralement, on va jusqu'au bout. La question que je me pose, c'est la raison pour laquelle ce monument n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine.
Oui, c'est une très bonne question. En 94-95, ou 98, pardon, j'ai plus les dates en tête, il y a eu une proposition d'un organisme qui s'appelle la Corefae pour un classement, et ces deux avis favorables n'ont pas été acceptés par les municipalités du moment parce que il apparaissait a priori que les contraintes étaient plus lourdes que les avantages au niveau des subventions. Et nous considérons qu'hélas, c'est une erreur, parce que le regard qui est porté par les pouvoirs publics n'est plus le même. Or, je signale que le 21 novembre dernier, nous avons adressé au cabinet du ministre une demande d'ouverture d'une instance de classement. Oui. Cette demande a été soutenue par 300 cartes postales envoyées à M. Renaud de Neudieu de Vabre, bien que nous considérions que les spécificités architecturales de notre église d'Arc justifient sa remise en valeur, qu'elle soit classée ou pas, ce qui est le cas d'un certain nombre d'autres églises en France. Le fait qu'il n'y ait pas de classement ne veut pas dire qu'elle ne vaut pas.
Et oui,
je sais que dans le siècle précédent, on avait peu d'attention aux églises du 19e, oui, contrairement à d'autres.
Alors qu'elles sont tout à fait intéressantes. Absolument. C'est un moment de l'architecture, et puis oui, surtout une époque où on a beaucoup construit d'églises, hein,
voilà,
parce que quand même,
voilà,
certaines avaient été détruites, oui, sous la Révolution. On a beaucoup construit, notamment sous la Révolution, et puis pendant toute la période du 19e siècle.
Voilà, 50% des églises françaises sont du 19e
voilà,
siècle.
Voilà, 50, monsieur Labbé Cellier, qui est un grand spécialiste de la chose, nous dit que 50% des églises françaises actuellement debout ont été construites au 19e siècle.
Tout à fait.
Grande époque de construction. Rien que pour ça, c'est un témoignage, surtout que c'est le seul monument d'intérêt dans cette petite ville. Je rappelle que cette petite ville a 2500 habitants, mais que la pétition en faveur de la sauvegarde de cette église a été signée par 2300 personnes.
Nous avons dépassé aujourd'hui les 2300 et qui viennent de France et du monde entier, même de Chine, figurez-vous.
C'est une merveille.
C'est étonnant.
On va d'ailleurs tout...
Il y a un tollé général qui se heurte à un mur, une obstination... Écoutez, j'ai pas peur d'employer le mot d'obscurantisme. Mmh. Nous en sommes là et je l'affirme, ce mot-là.
Alors, je donne tout de suite, pour ne pas l'oublier, puis je le redonnerai en fin de séquence, si vous le voulez bien, l'adresse de l'UEPA, parce que je crois que nos auditeurs seront très sensibles à cette, oui, défense du patrimoine, tout ce qui est patrimoine français, culturel, religieux, architectural, artistique, tout ça nous intéresse, et ça fait partie des bons combats qu'il faut mener, parce que c'est pas pour nous que nous les menons, c'est pour ceux qui viendront après nous.
C'est pour demain,
hein, et si nous leur laissons que, voilà, si nous leur laissons que des restaurants, je ne dirai pas le nom, Mac, machin truc, ou des murs de béton, vraiment, on aura sali la mémoire de nos aïeux, et on aura préparé un avenir épouvantable pour nos descendants. Alors, UEPA, 50 rue de la Cras, C-R-A-S, 50 rue de la Cras, 21 560, arc, comme un arc, sur Tille, T-I-2-L-E. Votre association bénéficie d'un très bon site internet, bien documenté, on peut y voir beaucoup de choses, c'est tout simple, c'est uepa.fr. Alors avec les www, tout ce que vous voulez devant, uepa.fr. Suis-je autorisé à donner votre numéro de téléphone, de télécopie?
Tout à fait, si ça peut faciliter les relations de la part de gens sérieux, je me tiendrai autant que faire se peut à leur disposition pour les éclairer.
C'est très aimable à vous et grâce à votre courtoisie, je pense que vous aurez beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie qui sont intéressés à vous donner un coup de main.
Vous avez une chaîne que je ne connaissais pas et que je salue. Je salue les personnalités qui sont à vos côtés sans les connaître.
Sans même les voir. Mais
vous m'autorisez à ajouter un tout petit mot.
Bien sûr.
Voilà, j'ai envie de dire que c'est la fin des documents un petit peu que je vous ai communiqués, que dans notre monde du TGV, des supermarchés, c'est un peu ce que vous avez laissé entendre tout à l'heure, et des téléphones jetables, notre combat n'est pas celui d'une arrière-garde recroquevillée sur son passé, mais bien une force dynamique qui est tournée vers l'avenir. Car une église, c'est un signe qui porte comme un trésor l'espérance d'un peuple nourri d'une culture ancestrale. Donc il y a la dimension culturelle avec concerts, conférences, etc. Il faut faire vivre ces églises. Et puis la dimension culturelle. Je considère qu'accepter sa disparition est injustifié, injustifiée, c'est vraiment être complice d'un forfait qui vous l'avoue à d'autres actes qui défigurent notre pays et lui font perdre son âme. Alors on ne peut pas s'en débarrasser comme d'une cabane au fond du jardin.
Ça c'est clair. Mais éventuellement, est-ce que si c'est une question de sol et de fondation,
pas du tout.
C'est pas cela, hein, parce que sans quoi l'église pourrait être démontée pierre à pierre et voilà. Remontée à l'identique sous un autre terrain mieux viabilisé dans un autre.
Il n'y a pas de controverse sur le fond du sol, c'est-à-dire les pieux reposent dans un sol extrêmement compact, alluvionnaire, etc. Mais des études ont prouvé qu'il peut supporter un poids 10 fois plus supérieur à cette église. C'est un problème, techniquement c'est très facile, pour les techniciens comprendront, on injecte des micropieux tout autour des éléments fragilisés, en particulier autour du clocher qui est très lourd, et puis on met des tirants provisoires cette fois pour stabiliser la toiture, en attendant une restauration plus complète.
D'accord.
Évidemment, si demain nous avions un mécène qui nous envoie 3 millions d'euros, le problème serait
réglé tout de suite.
C'est d'ailleurs la remarque tout à fait ironique de notre maire à notre égard. Si vous apportez les 3 millions, on pourra la sauver. Il y a des contradictions à ce niveau-là, je ne veux pas les développer.
Non, mais j'aime bien les maires comme ça, parce que c'est facile d'être maire, parce que tous les problèmes, vous dites, c'est les autres. Comme ça, vous débarrassez du problème.
La responsabilité d'un maire qui est très lourde, il a la responsabilité de la sécurité. Je lui ai suggéré d'entourer le clocher rapidement d'un filet protecteur, comme on le fait au bord des routes.
Oui.
Il y a de ça 8 mois, et on attend toujours. Alors, il se plaint des menaces. Il n'y a pas de menace. Notre architecte a affirmé qu'il n'y a pas péril à l'en demeure. Bien sûr, si on laisse aller les choses, il y a une dégradation puisqu'il y a un trou dans le clocher qu'on refuse de boucher et l'eau pénètre. Alors évidemment, il n'y a rien qui résiste. Laissez votre maison à l'abandon pendant 60 ans, vous verrez ce qu'elle va devenir.
Évidemment. Alors j'invite nos auditeurs à aller sur le site pour voir à quoi ressemble cette église qui est vraiment très belle. Allez voir sur le...
L'intérieur. L'extérieur est austère, mais l'intérieur est absolument...
Ah oui, c'est magnifique. Allez voir sur le site uepa.fr, puis si vous passez, si nos auditeurs passent pas loin de Dijon, ils peuvent aller à Arc-sur-Tille pour voir de visu.
Je me fais un plaisir, mais je ne pourrais pas faire visiter l'intérieur.
Hélas. Alors donc, merci cher André Frangeau. Je rappelle l'adresse de votre association UEPA, 50 rue de la Cras, C-R-A-S, 21 560 Arc sur Tille, T-I-2-L-E. Le téléphone de l'association, 03 80 37 04 54. 03 80 37 04 54. André Frangeau, je vous demande de faire vous aussi un engagement de nouvelle année, puisque nous prenons tous des résolutions nous essayons de les faire, c'est de nous tenir et de me tenir vraiment très au courant de tous les développements de cette affaire. Si vous avez besoin d'un coup de main, d'une nouvelle campagne via Radio Courtoisie pour défendre ce projet magnifique, vous êtes sûr de pouvoir compter non seulement sur moi, mais sur beaucoup d'autres patrons d'émissions de cette radio. Et je voulais simplement que vous ayez la gentillesse de songer à bien nous tenir au courant pour que nous puissions vous être le plus utile possible dans votre combat, qui est un combat qui n'est pas seulement un combat des habitants d'Arc-sur-Tille, je ne sais pas comment on les appelle, les Arcs...
Arc-sur-Tillois...
voilà, Arc-sur-Tillois...
je ne sais pas trop, voilà. Même, il y a contre traverse.
Mais qui est vraiment un projet magnifique de défense de défense du patrimoine, qui est notre patrimoine commun, c'est le patrimoine commun de la France et puis aussi de l'Europe. Merci beaucoup André Fangeau.
Je qui vous remercie de votre gentillesse.
Du tout.
Et moi je vous tiens au courant.
Avec infiniment de plaisir. Merci pour cette
Merci
information.
À tous.
Voilà, donc c'était André Fangeau, président de l'UEPA, pour la défense. Voilà, quelque chose, voilà, petite affaire qui vraiment n'est pas d'un budget considérable et on voit la mauvaise volonté. Quand on a un problème, on le cache. Bon, cette église, elle a des petits problèmes. Bon, c'est très facile de la retaper. C'est un très très bel endroit. Non, vaut mieux. Pour construire quoi? La mairie s'est engagée à construire un bâtiment de culte. Une mairie qui construit un bâtiment de culte, c'est extrêmement compliqué, comme il y a une loi de séparation de l'Église et de l'État. Il ne faut pas nous raconter n'importe quoi. Alors évidemment, l'évêque Minrat de Dijon, lui, est très très opposé à la destruction de cette église, parce qu'il est à peu près convaincu qu'il n'y aura jamais rien de reconstruit d'autre par la mairie. C'est absolument désastreux. Puis pour construire quoi? Hein, un hangar
un genre de salle polyvalente.
Voilà, une salle polyvalente, on voit tout à fait ça. Enfin, bon, franchement, c'est
qui
pas
sert
ça.
À tout et n'importe quoi.
C'est pas ça dont on a besoin. Alors voilà, donc, et bien maintenant nous, il y a eu d'autres messages peut-être,
Victoria. On revenait, enfin, pas pour l'église, on revenait sur M. Wouters, enfin.
Un message, allez vite là, parce que...
Il y a seulement une soixantaine d'années, nos appartements ne comportaient pas une salle à manger et un salon, une chambre par enfant, il n'y avait pas non plus de bureau. Mais nous nous contentions de pommes de terre avec quelques bas morceaux de viande. Cela n'empêchait pas nos parents et grands-parents d'avoir plusieurs enfants. Voilà.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, il faut quand même, c'est très vrai, mais même nos ancêtres des cavernes essayaient d'avoir de plus d'enfants possible. Ils n'avaient pas l'eau courante, ni le gaz, ni l'électricité. Toutefois, il y a quand même des progrès. Les progrès sont un bien pour l'homme. On peut pas, ça tombe sous le sens. C'est vrai que l'État, ayant le souci du bien commun de la nation, c'est-à-dire en fait que la nation déjà se reproduise, se renouvelle, c'est la moindre des choses, eh bien, il lui faut aussi, c'est son devoir, aider à procurer à ceux qui veulent des enfants la possibilité d'en avoir, encore une fois. En plus, c'est très agréable d'avoir des enfants, je veux dire, c'est pas un truc, c'est pas se faire arracher une dent quand même. Bon. Donc voilà, c'est d'avoir autant d'enfants qu'on le peut, sans mettre bien sûr en danger la vie de la mère, le plus d'enfants qu'on peut, et donc pour cela, eh bien, il faut aider les familles à élever les enfants, à les nourrir, etc. Et puis, il faut les aider à les loger. Et puis, alors, d'une bonne éducation. Mais pour la bonne éducation, il vaut mieux avoir affaire aux écoles totalement libres. Voilà, à mon avis, vous faire de l'école à la maison. Moi, je suis pour l'école à la maison.
Je crois quand même que c'est la comparaison entre le SMIC et les allocations familiales qui est essentielle. Les choses évoluent, bon, on est mieux logé, on a des tel ou tel confort, c'est une bonne chose. Il faut que tout évolue en même temps.
Voilà,
c'est là la question. Je crois qu'il n'y a pas de problème de logement en soi, c'est qu'on ne fait plus de logement assez grand, c'est tout. Ouais. Mais on peut très bien le faire, il n'y a pas de difficulté technique.
Monsieur l'abbé, vous avez pris la parole, vous allez la garder. Alors je salue votre présence, surtout l'apparition du numéro 175 du bimestriel, je ne suis pas trompé ce coup-ci, bimestriel fidélitaire. Pas mal le 175 quand même, ça fait quelques années que ça existe. Avec un numéro extrêmement intéressant pour son dossier. Le reste, vous savez, bon, c'est très intéressant aussi, mais voilà, c'est plus les petits trucs. Ce qui est bien, c'est les dossiers, et vos dossiers sont toujours de qualité. Celui-là est particulièrement de qualité. Le titre, c'est « Immigration, un regard chrétien ». Et malheureusement, nous ne le verrons pas sur Radio Courtoisie, puisque nous n'avons pas encore télé Courtoisie. Mais la couverture est assez atypique par rapport à ce que... Un vain peuple pourrait imaginer être les couvertures de fidélitaires. Ça représente un groupe de 5 jeunes adolescents, souriants, avenants, sympathiques à regarder, habillés normalement comme les jeunes d'aujourd'hui, mais pas sales. Celui du haut est un jeune homme de type franchement asiatique, peut-être est-il cambodgien ou vietnamien. Ses deux voisins, juste en dessous de lui, il y en a un visage très sympathique, mais plutôt, disons, méditerranéen ou moyen-oriental, ou je sais pas, enfin, voilà. Un autre est vraiment très blond, avec les yeux plutôt bleus. Au milieu de ce groupe, il y a une jeune fille noire de peau. Et puis, de l'autre côté de cette image, cette espèce de pyramide humaine très sympathique, il y a une jeune fille plutôt blonde, avec les yeux bleus aussi, avec un très joli sourire, je reconnais. Bon. Voilà. C'est intéressant. Je pense que vous n'avez pas fait pour comme ça, parce que vous ne savez pas quoi prendre et que vous avez piqué ça chez Benetton. Mmh. Et donc je pense que pourquoi vous avez fait ce type de couverture ? Elle n'est pas un peu provocatrice pour vos lecteurs ?
Non, je pense que si vous voulez, l'intérêt n'est pas de s'interroger sur les immigrés méchants. Parce que ça, s'ils sont méchants, ils seraient aussi méchants s'ils n'étaient pas immigrés. Il faudrait les sanctionner, les mettre en prison ou que sais-je.
Il y a des Français de souche qui sont méchants
voilà,
aussi.
Voilà, c'est ça. Donc ça n'est pas particulièrement intéressant. Non, c'est de s'intéresser à l'immigration normale, l'immigration de gens honnêtes, des gens, et d'étudier ce qu'il faut en penser, ou ce sur quoi il y a des problèmes à la fois de philosophie, de théologie et de politique. Donc il ne s'agissait pas de mettre des gens désagréables, parce que ce n'est pas la réalité de ce qu'on voulait traiter. Qu'il y ait des gens désagréables, ça c'est un fait, mais ces gens-là relèvent d'autre chose que d'une réflexion sur l'immigration, si je puis dire. C'est sur le code pénal, c'est ce qu'on veut, je dirais. Et donc là, c'est de dire, voilà, il y a des gens qui sont effectivement des jeunes qui sont plutôt sympathiques à voir, un sourire agréable. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pourquoi c'est une bonne chose? Pourquoi c'est une mauvaise chose? De quelle ou telle façon? Donc c'est un dossier qui essaye vraiment de réfléchir, qui apporte sa contribution à une réflexion d'ensemble politique, puisque c'est un sujet extrêmement traité actuellement, et notamment dans la campagne présidentielle. Nous apportons notre part de réflexion. Mais pas, je dirais, en disant, voilà, pas en prenant un exemple mauvais pour en tirer une loi générale, mais essayant de prendre, supposons même que les choses aillent très bien, qu'est-ce qu'on peut en déduire, etc.
Alors, ce dossier très bien fait est articulé en quelque sorte autour de trois entretiens de vous-même avec un questionnaire anonyme de la rédaction de Fidélitaire, et un peu comme une espèce de gâteau, vous avez une couche de crème, une couche de pain, une couche de crème, et puis il y a des articles extrêmement intéressants entre ces trois documents. Je voulais toutefois savoir, vous dites un regard chrétien. C'est vrai que les questions de l'immigration, on a toujours tendance un peu à dialectiser le problème, c'est-à-dire c'est soit le rejet, rejet, pas d'immigrés, etc. Quelle horreur, bon, rejet, exclusion, si vous voulez, bon, des mots à la mode. Soit alors les positions totalement iréniques, ou irénistes, je ne sais pas comment il faut dire, irénistes ou iréniques, je ne sais pas là où l'autre se dit ou se disent. Disons, ouais, tout va bien, c'est très bien, c'est sympa, la comment on appelle ça, pas la mixité, mais je sais plus, le métissage, c'est parfait, tout ça, bon, allons-y, embrassons-nous, Folleville. Bon. Alors, votre problème, votre analyse à vous est beaucoup plus subtile que ça. D'abord, elle analyse les réalités, les chiffres, les tendances. Elle essaye de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Évidemment, le problème de l'immigration, c'est pas les immigrés qui la causent. C'est nous, c'est les Français, c'est l'État français qui a causé le problème, si problème il y a. Eux, ils suivent leur pente naturelle. Leur pente naturelle, c'est d'aller chercher du travail là où il y en a, du pain là où on peut en manger, de la sécurité là où on peut en trouver. À partir du moment où on n'en a pas chez soi, ça pose problème. Alors, qu'est-ce qui différencie, selon vous, monsieur l'abbé, qu'est-ce qui différencie le regard chrétien que vous portez par rapport à ce double regard que j'ai un peu schématisé tout à l'heure, soit d'exclusion totale, soit d'accueil absolument irénique?
Alors, avant même d'être chrétien, il y a d'abord une réflexion. C'est une réflexion, donc ce dossier est une réflexion de philosophie politique et de théologie politique, donc qui essaye de poser des principes. Précisément, de voir ça de haut, et nous ne prétendons pas, nous, donner des recettes politiques. C'est aux hommes politiques de prendre leurs responsabilités sur la base de principes vrais, mais ensuite, il y a des choix ponctuel à faire. Est-ce qu'on va favoriser la venue éventuellement de tel pays plutôt que de tel autre? Ça, c'est un choix politique, mais donc d'éclairer.
Qui sont permis par la
doctrine catholique. Donc c'est effectivement de voir les choses au niveau des principes. C'est ce que j'ai voulu faire dans ce dossier, c'est d'apporter une réflexion de principe. Et ensuite, les gens éclairés par ces principes prendront leurs responsabilités politiques pour les hommes politiques et pour les électeurs, et bien en fonction de cette réflexion et du programme que leur proposeront les hommes politiques. Évidemment, ce qu'il y a de chrétien, c'est que mon analyse repose sur les principes de la théologie morale et politique catholique, tout simplement. Donc la doctrine sociale, mais aussi la doctrine morale, puisque je me suis inspiré pour éclairer la question de la doctrine de la propriété privée, que j'applique avec ces nuances, que j'applique à la vie, disons, à la vie de la nation. comment la nation qui est propriétaire du sol où elle est, du pays où elle est, comment elle doit concevoir son rapport avec, avec cette propriété du pays. Puisque la théologie morale nous donne, sur la question de la propriété, des éclairages. Puisque les théologiens anciens n'ont pas beaucoup traité spécifiquement de l'immigration, probablement parce que à leur époque, c'est pour, parce que les moyens de transport étant faibles, l'immigration, ils ne la connaissaient pas beaucoup, ils ne la percevaient pas beaucoup. Donc ils ont beaucoup réfléchi sur un certain nombre de problèmes qui sont la base de ma réflexion, mais ils n'ont pas apporté sur la question spécifique de l'immigration. Donc j'ai essayé de faire justement une synthèse et une avancée de réflexion à partir d'une base que j'ai trouvée dans les meilleurs livres sur la question de la propriété privée.
Alors vous citez un peu le magistère, c'est un petit peu la question que je vous posais tout à l'heure avant que l'émission débute, et puis comme j'ai vu que vous y répondiez de façon extrêmement satisfaisante, j'ai envie de vous poser la question pour que les auditeurs puissent en profiter. J'ai été un petit peu choqué, moi, en lisant votre dossier. Choqué, non. Un peu surpris en lisant votre dossier. Choqué, faut pas exagérer. Alors, si Fidelita commence à me choquer, alors franchement, c'est que vraiment, je suis devenu extrêmement intégriste. C'est... Je vous en prie, ne riez pas comme ça, vous. C'est de voir que... je comprends que les références au magistère, notamment des papes, sur la question des migrants, de l'immigration, etc., que le problème a commencé à se poser, disons, au XXe siècle, pour faire court, de façon massive et peut-être d'une nature un peu différente. Bon, que Pie XII ait été le premier pape dans lequel on puisse trouver des documents extrêmement discursifs sur cette question, c'est tout à fait normal que vous le citiez, avec d'ailleurs d'abondance, mais vous n'avez pas jugé utile, ou peut-être n'avez-vous pas cru utile, ou pas eu le temps tout simplement, parce que vous avez beaucoup de travail, de chercher dans le magistère postérieur, c'est-à-dire jusqu'à Jean-Paul II ou Benoît XVI, puisqu'il y a aujourd'hui à Rome, bon, vous savez, une congrégation pour les migrants, il y a des journées, patati, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Alors c'est intentionnel, ou vous vouliez simplement partir sur la base commune de tous les catholiques?
Voilà, effectivement. Bon, d'une part, je fais référence à quelques textes de Pie XII en particulier, mais mon propos est un propos que j'appellerais personnel. Enfin, c'est une réflexion construite qui n'est pas purement et simplement l'exposé de ce que veut le magistère. C'est vraiment une réflexion où j'apporte à partir d'une analyse des théologiens moraux. Donc je me suis appuyé sur quelques citations de Pie XII qui éclairaient mon propos, et je n'ai pas voulu aller dans un magistère qu'on va qualifier de contesté sur certains points, de façon à ce que les principes communs soit universel. C'est-à-dire, on est tous d'accord que le magistère de Pie XII est valable, etc. Après, il y a sur certains points du magistère des contestations. Alors, restons, comme dit saint Thomas, quand on fait une discussion, il faut avoir des principes communs. Si on a des principes différents, on risque pas de s'entendre. Alors, on prend des principes communs, et à partir de ça, on essaie de déduire des conclusions. Donc, moi, je suis resté sur ce qui était commun. Mais le but, je n'ai pas voulu exposer, ni critiquer, ni attaquer, ni soutenir, ni quoi que ce soit du magistère, par exemple, post-concile. Je ne l'ai pas traité en tant que tel, ce n'était pas mon but. Mon but n'était pas de dire voilà comment a évolué le magistère sur l'immigration. J'ai vraiment voulu donner une réponse, comme ferait saint Thomas, bien que je ne sois pas saint Thomas. On pose une question, on essaye de donner à la fin une certaine réponse avec les nuances autour de cette chose-là. Et je pense que les textes que j'ai cités de Pie XII m'apportaient suffisamment d'éclairage sur précisément ce que pense le magistère, à la fois dans cette de dire que la Terre, puisque c'est ça ma base, la Terre a été donnée au départ pour toute l'humanité et elle doit rester au service de toute l'humanité, et de l'autre côté, Pie XII qui me donne l'autre principe qui m'intéresse, c'est de dire néanmoins la propriété privée, y compris d'une nation sur le pays qu'elle occupe, est légitime et elle a le droit de réguler les flux qui viennent. Alors, ce qui m'a semblé, ce qui est intéressant, c'est de dire que l'immigration est d'abord un fait. C'est un fait qui existe, qui a existé et qui existera toujours. C'est un fait. Pourquoi ? Parce que, je dirais, la sécurité, le travail, l'abondance n'est pas également répartie, soit parce que les hommes gèrent mal le monde, soit parce qu'il y a des catastrophes naturelles parfois. S'il y a pas de mousson, je ne sais pas si c'est une mousson, mais du côté du Sahel, et que les gens vont mourir de soif et de faim, eh bien, il est normal qu'ils aillent là où ils pourront manger. On peut rien y faire. Bon. Mais de l'autre côté, les théories immigrationnistes, on va dire ça, qui disent qu'il faut de l'immigration. Or, le pape Pie XII et la réflexion nous montrent qu'en soi, l'immigration est un malheur. Je parle de l'immigration de pauvreté. Je ne parle pas de la petite frange des gens qui ont la bougeotte et qui veulent aller dans notre pays. Ça, c'est autre chose.
Les aventuriers.
Mais l'immigration normale est un malheur puisqu'on quitte un pays où on est né et qu'on aime puisque c'est notre pays parce qu'on ne peut plus y vivre. Et donc, en soi, il faudrait travailler à ne pas avoir d'immigration, tout simplement, pour que chacun soit heureux dans son pays. Et d'autre part, aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'authenticité, n'est-ce pas? L'authenticité, c'est un village authentique, c'est un village. Si tout est mélangé, eh bien, vous savez que quand vous mélangez toutes les couleurs, ça fait une espèce de gris immonde. Ça n'a pas de sens. Nous voulons garder la France telle qu'elle est, si nous voulons que les Africains restent Africains avec toutes leurs caractéristiques, les Asiatiques, que sais-je, eh bien, si tout le monde se mélange, il ne restera plus rien. Voilà. Et donc, de ce côté-là, c'est aussi, je rappelle qu'il y a un droit pour une nation de garder sa spécificité. Et que la nation française est une nation blanche, caucasienne, je dis pour rester politiquement correct, que le Japon est une nation asiatique et que le Sénégal est une nation noire africaine et que ça n'est pas la même chose. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il y a des personnes d'origine africaine, il y a des personnes d'origine asiatique en France qui sont des citoyens tout à fait légitimes et qui ont leur place, etc. Mais en soi, le Sénégal est un pays noir et la France est plutôt un pays blanc. Voilà, ça c'est un fait et qu'il est légitime que les chefs de l'État veuillent, les autorités de l'État veuillent préserver cela, de même qu'il est légitime qu'on préserve notre spécificité plutôt catholique, et il est normal que dans d'autres pays, ils préservent leur spécificité, d'autres religions ou d'autres cultures ou d'autres que sais-je, ça c'est un autre problème.
Normal, mais peut-être pas, peut-être pas conforme à la vérité.
Voilà,
est-ce que je peux vous poser, parce que là, ça avance, enfin, à part le fait que l'ami Jean Madiran, dans présent, vous est quasiment souhaité, si les évêques pouvaient être élus. Oui, si les évêques pouvaient être élus, eh bien vous, ils vous éliraient tout à fait volontiers pour être évêque. Vous dites quand même deux choses qui sont intéressantes, sur lesquelles là on n'aura pas le temps de trop développer. Ça montre la richesse de votre réflexion. Vous dites par exemple que l'immigration de longue durée n'est pas compatible avec le refus ordinaire du groupement familial. Ça rompt un peu des lances avec certaines thèses qu'on entend parfois. Il faut quand même.
C'est-à-dire que ça, c'est un principe que les parents ont toujours défendu. C'est le droit au mariage et à la famille. Si les personnes vivent dans le pays pour longtemps, eh bien, elles ont le droit à se marier et avoir des enfants. Voilà. Mais si on ne veut pas ça, il ne faut pas qu'ils vivent de longtemps.
Deuxième chose, que là, on en parle un petit peu actuellement avec le problème des logements à Paris, notamment, mais d'une propriété immense, légitimement possédée, qui ne serait pas exploitée par des intérêts du propriétaire, au grave détriment des populations environnantes. Dans ce cas, l'autorité publique, qui a la charge du bien commun, peut restreindre les droits de la propriété privée pour obliger, par exemple, le propriétaire à concéder l'exploitation agricole à des petits paysans, peut-être même des appartements.
Voilà. Oui, ça s'est fait effectivement. Je donne cet exemple parce que ça s'est toujours fait, y compris dans les États pontificaux.
Oui.
Donc sous Pie VI, juste avant la Révolution, eh bien le pape de nouveau fait une loi où il divise de façon violente, si je puis dire, enfin, de façon autoritaire des latifundia, parce que les propriétaires ne s'en occupent pas.
Brillant numéro, monsieur l'abbé, brillant dossier, intéressant, vraiment catholique, c'est-à-dire ferme en même temps charitable.
Voilà, nuancé.
Il faut que ce problème soit traité de cette façon. Je parle de l'immigration légale, légitime, comme ces jeunes que vous avez mis en photo si sympathique sur la couverture. Immigration à regard chrétien, fidélitaire, donc le numéro janvier-février 2007, c'est le numéro 175, c'est 7,50 €, donc on le trouve à la librairie France Livre, du Petit Pont, ou à défaut, aux éditions Clovis, mais là il faudra peut-être ajouter quelque chose.
C'est pour gratuit.
C'est bien. Édition Clovis, boîte postale 88, 91 152, Étampes. Sélex.
On peut téléphoner éventuellement au 01 69 78 30 23. 01 69 78 30 23.
Eh bien, merci monsieur l'abbé de ce bon numéro et puis de toutes ces explications. Vraiment, c'est bien. Ça m'a plu. Si ça m'a plu, c'est que c'est bien. Puis surtout, j'ai tout compris. Tout le monde peut comprendre. Si le plus bête de la classe comprend, les plus intelligents auditeurs dans une courtoisie comprendront certainement ce qu'ils liront. Alors maintenant, je crois que nous avons notre dernier invité pour cette première partie au téléphone. Monsieur Bruno Larobière, êtes-vous avec nous?
Je suis là, Daniel.
Eh bien, je vous salue, mon cher Bruno. C'est très heureux de vous avoir pour une petite conversation, même une bonne conversation d'une vingtaine de minutes, quand même, sur le dernier numéro du choc du mois. Alors ça, c'est la concession qu'on va faire à la politique. On n'en a pas fait beaucoup jusqu'à présent, mais là, aujourd'hui, on va en faire, surtout que les échéances électorales arrivent à ce que disent les gazettes, prêti. Et puis, vous avez fait un numéro qui est le numéro 8 du choc du mois. Hein, c'est la revue qui tient ses promesses, parce qu'elle continue. Hein. Parce qu'on sait jamais, des fois, vous savez, il y a beaucoup de malfaisants, genre, oh, ils en font un, mais ils en font pas deux, puis après, vous en avez fait deux, oh, ils en font deux, ils en font pas trois, puis trois, oh, ils en font pas quatre, ben là, huit.
Huit, et on en fera peut-être pas 800, mais enfin, on arrive à 799,
hein. Là, si vous voulez en faire 800, faut passer quotidien, mon cher, parce que je crains qu'au bout de 800 mois, vous soyez plus très, très, très frais. Alors, comme c'est d'usage, le choc du mois est un magazine d'information, pour parler français, avec beaucoup de rubriques de toutes sortes, et contient toujours un dossier très intéressant qui là est consacré aux femmes en politique.
Ouais.
Avec comme sous-titre, c'est tout à fait les sous-titres du choc du mois, des mecs comme les autres, point d'interrogation. Alors ce qui est assez curieux, cher Bruno, c'est que tout à fait par hasard, après avoir reçu le numéro et avoir commencé à le dévorer, je vais même aller jusqu'à faire le mot croisé, je crois qu'il est fini, oui il est fini, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres publications qui reprenait à peu près le même thème, c'est-à-dire que tout à coup, la femme en politique est devenue un sujet de magazine d'info.
Oui, on se demande pourquoi. Effectivement, c'est l'Histoire, je crois, qui a sorti un dossier sur les femmes en politique dans l'Histoire. Et la semaine dernière, le Courrier international, les femmes sont-elles vraiment les meilleures ? Donc, comme quoi, lorsqu'on a décidé de faire ce dossier, il y a maintenant un mois et demi, ou un peu plus, eh bien, on s'est retrouvé dans l'air du temps, en phase en tout cas avec l'actualité et avec des interrogations qui sont peut-être dues à la possibilité qu'une femme soit élue présidente de la République.
Voilà.
Ah, bon, pour dire les choses clairement, oui, effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Ségolène Royal peut apporter une façon différente de faire de la politique, et sont entendu que puisque les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars, forcément, elles sont plus
douces. Soi-disant. Ce n'est pas tout à fait l'idée qu'on se fait en lisant l'article d'ailleurs qui lui est consacré, puisque le titre c'est une montre religieuse prénommée Ségolène.
Parce que...
Elle est si religieuse que ça?
Elle l'a été aujourd'hui, je ne sais pas si c'est assidu. On s'est posé la question, bon, est-ce que les femmes, effectivement, font de la politique différemment? Alors on a cherché des grands exemples,
oui.
Des grandes ancêtres, et on a cherché en vain des grandes ancêtres qui font de la politique différemment. Quels sont les noms qui viennent à l'esprit? Margaret Thatcher, Eva Perón.
Oui.
J'ai une certaine sympathie pour Eva Perón, un peu moins pour Margaret Thatcher, mais on ne peut pas dire que c'était douceur et félicité lorsqu'elles furent au pouvoir.
Disons que pour les femmes au pouvoir, il n'y a pas une grande différentitude avec les hommes, quoi.
À part sémantique, peut-être. Et peut-être si, à part dans la rudesse, dans la difficulté à arrondir les angles, à se mettre autour d'une table avec l'adversaire, à discuter, à se retrouver à la buvette de l'Assemblée, pour dire les choses clairement, et considérer que certes on a des divergences, mais bon, cher ami, on boit un coup, on doit pouvoir s'entendre, ou en tout cas pouvoir discuter sereinement. Les positions sont quand même beaucoup plus tranchées, les rancunes plus tenaces.
Oui. Alors je veux dire, moi il y a deux...
Et le comportement souvent autoritaire, alors soit parce qu'elles estiment qu'elles ont quelque chose à prouver, soit par manque d'assurance, soit par trop de certitude, mais lorsqu'une dame est de fer, elle l'est vraiment, elle ne plie pas.
Oui, elle ne plie pas. Alors il y a deux, on va parler encore un peu de ce numéro, mais là il y a deux entretiens.
Oui.
Qui sont vraiment épatants. L'un où on attendait un peu le choc du mois, c'est un entretien exclusif avec Marine Le Pen, qui est très intéressant, une femme qui réfléchit pas mal quand même à ce qu'elle fait. Et puis un autre où là...
J'ai trouvé ça intéressant, parce qu'effectivement, Elle, c'est en décalage par rapport à son livre. En tout cas, elle va beaucoup plus loin que son livre. Je ne veux pas dire par là que son livre n'est pas intéressant, mais on en a été resté avec son ouvrage à une vision un petit peu victimaire. Et là, c'est une réflexion sur le rôle que la femme peut avoir en politique et pourquoi on se tourne vers elle. Et son analyse, après, on en a débattu dans la rédaction, par curiosité.
Enfin, ah, vous vous battez dans la rédaction, là? Alors, vous avez débattu, pardon.
Débattu, cher Damien. Parce que là, pour savoir ce que les uns et les autres en pensaient, sa thèse est intéressante. Sa thèse est dans un monde qui fait peur, dans ce monde mondialisé, dans ce monde sans repères. Les gens se tournent, puisque le phénomène n'est pas seulement un phénomène français, bien évidemment, d'émergence des femmes en politique, les gens se tournent vers ce qui les rassure.
Ah, vous avez vu qu'aux États-Unis, la candidate quasiment annoncée du parti républicain, c'est Madame Clinton, et que la présidente de la
du parti démocrate,
autant pour moi, parce que je pensais à autre chose, et que quand on pense à deux choses à la fois, Monsieur Labbé, moi je suis pas comme vous, je suis pas un génie, je pense à deux choses, et pouf, me marche sur la langue. Bon, c'est les curés sont vraiment
comme ça qu'ils ne pouvaient pas à la fois marcher et mâcher son chewing gum.
Bah, c'était
Gérald Ford,
le président américain qui vient de décéder, et puis Madame Pelosi. La démocrate qui est maintenant la présidente, c'est la première fois qu'ils ont ce qu'on appelle le speaker, c'est-à-dire la présidente de la Chambre des députés, qui est une femme. Ils n'ont jamais eu aux États-Unis. C'est très curieux.
Ouais. Alors, la thèse de Marine Le Pen est qu'on se tourne, on cherche ce qui rassure.
Ouais.
Et que ce qui rassure, c'est la femme. C'est la femme avec son image maternelle, protectrice, etc. Je ne sais pas ce qu'il en est, je suis dubitatif, mais je trouve la thèse en tout cas très intéressante et qui mérite d'être étudiée. Et c'est vrai que cet entretien avec Marine Le Pen, moi je l'ai trouvé vraiment intéressant.
C'est intéressant. L'autre entretien très intéressant dans un tout autre registre, que c'est une personne maintenant qui n'a plus véritablement de poids, d'influence ou de rôle politique, mais qui en a eu quand même pas mal à une certaine époque.
C'est Marie-France Caron ?
Pas du tout. Vous voulez faire l'émission à ma place, Jean Moutard, donc, c'est Edith Cresson.
Tout à fait.
Alors là, l'interview, ouais, on lit ça que pour or.
Qui est intervenu là, parce que je ne sais pas qui est.
C'est Pierre Outer, c'est le président général de Laissez-les vivre. Mais lui, il est resté sur le numéro du mois précédent, je pense. Parce qu'il y avait.
Alors, effectivement, voilà. La réaction Marie-France Garraud. Eh ben non, parce que nous faisons le choc du mois.
Voilà.
Nous aurions été tout à fait honorés d'avoir Marie-France Garraud, mais nous sommes allés chercher Edith Cresson.
Et c'est très très intéressant. Cette femme, enfin, démontre avec ses mots à elle, hein, que la situation que lui ont fait ses camarades du Parti socialiste et autres groupes de gauche à Marie Blanche a découvert a été quand même assez salopard, quand même, il faut dire. C'était quand même assez salopard, non? C'est pas ce que vous en pensez?
Ah si, de gauche et de droite.
Ah, c'est
un député de droite à l'époque qui l'avait surnommé la Pompadour.
Ah, c'est fou.
Ses camarades de gauche ne s'étaient pas vraiment empressés de prendre sa défense. Et l'entretien avec Edith Cresson est titré, ils ont voulu me démolir.
Oui.
Et effectivement, elle raconte, ce qu'elle raconte un peu dans le livre qu'elle vient de publier, la façon dont tous les éléphants du Parti Socialiste n'ont eu de cesse d'avoir sa peau, ce qu'ils ont eu assez rapidement, puisqu'elle est restée à Matignon, elle était la première femme Premier ministre, elle est restée à Matignon moins d'un an, en raison, évidemment, d'une politique, on va dire, hésitante, chaotique, en raison de propos qui lui ont été attribués et qu'elle n'avait pas forcément tenu, ou qu'elle n'avait pas tenu de façon publique, ou qu'elle avait tenu fort longtemps avant d'entrer en fonction et qui ont été opportunément publiés après qu'elle avait été nommée à Matignon. Et tant Pierre Bérégovoy que Laurent Fabius, que tous ceux qui constituaient la Mitterrandie à l'époque, n'ont eu de cesse de la flinguer, parce que c'était une femme, parce qu'elle avait, selon eux, aucune légitimité. Alors qu'on peut penser ce qu'on veut, d'Edith Cresson, de la politique qu'elle a menée, elle avait une légitimité démocratique, pareil, électorale, puisque elle avait, au fil de sa carrière, obtenu par le peuple tous les mandats qu'il est possible d'obtenir, et comme elle le fait remarquer, c'est pas le cas de l'actuel Premier ministre.
Ben non, Monsieur Galouzeau de Villepin, c'est pas ça, quoi. Voilà. Alors, autre entretien, alors c'est un entretien avec un homme cette fois-ci, mais ça c'est plus un sujet de... c'est plus un sujet historique, hein, que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que d'abord, j'ai une colossale admiration pour le professeur Xavier Martin, qui a fait un entretien magnifique sur la misogynie, le côté sombre des Lumières, qui est en fait, bon, une réflexion autour de son livre. Voilà, c'est sur la fin d'un entretien qui s'appelle L'homme des droits de l'homme et sa compagne, pour montrer que les fameuses Lumières, là, les libertés, etc., voulait mieux être un homme qu'une femme.
Oui, que les Lumières ont constitué, que la Révolution française a constitué une régression, que l'esprit des Lumières, évidemment, comme on le sait, fortement imprégné la Révolution française, dans tous les domaines, et y compris dans le pire domaine, qui est celui de la misogynie, et le terme est faible. Il cite de nombreux écrits des principaux philosophes de l'époque, que ce soit Diderot, Voltaire, etc., qui considèrent que la femme est par définition immature, qu'elle fait preuve de sensiblerie, qu'elle est totalement inapte à s'occuper de la chose publique. Je caricature à grands traits, si Xavier Martin nous écoute, il va être effondré, parce que son entretien est bien évidemment beaucoup plus subtil, très approfondi, très étayé, mais la ligne directrice, c'est ça, c'est leur texture plus lâche, l'irritabilité de leurs fibres. Ce qui montre bien, c'est quelque chose qui vient de leur substance même, leur interdisent les fatigues morales du gouvernement politique, cite-t-il de Lesquignot. C'est tout ce qu'il raconte sur la misogynie des philosophes des Lumières est proprement ahurissant. Il serait tôle aujourd'hui.
Il serait poursuivi, aucun doute.
Qui laisse penser que peut-être les lois actuelles ont de bon côté, d'ailleurs, mais...
c'est une façon de voir le problème.
Les effets pervers, disons, elles auraient des effets positifs.
Non, mais c'est incroyable, quand on lit un peu Voltaire, il a le dernier ouvrage de Xavier Martin est sur Voltaire. Voltaire méconnu, le titre est très gentil, le contenu est absolument à tomber à la renverse. Quand on pense qu'il y a tant de lycées Voltaire, de collèges Voltaire, de places Voltaire, d'avenues Voltaire, de rues Voltaire, etc. Alors que cet homme aujourd'hui, mais enfin, c'est invraisemblable. On a même du mal, on pourrait être peut-être poursuivi pour oser écrire dans un livre des citations de Voltaire, parce qu'on pourrait dire, attention, ça c'est raciste, c'est antisémite, c'est effrayant. Et ces gens-là que nous présentent comme des Lumières, elles sont belles, les Lumières. Hein.
Et quand Voltaire se fait admiratif, ému devant une femme, Madame du Châtelet, par exemple, comment la définit-il en disant que c'est un grand homme?
Voilà, c'est un grand homme. D'où le titre du numéro, Les femmes en politique, des mecs comme les autres. Voilà, très bien. C'est vraiment un très très bon numéro. Je veux dire que pour ceux qui comme moi, on suit évidemment chaque numéro du Choc du mois, et on espère à chaque fois qu'un numéro sort de vous avoir un petit peu au téléphone pour parler du numéro. Il y a une extraordinaire variété de thèmes et de traitements qui font que, enfin, pour moi, ça y est, quoi. Enfin, le Choc du mois, je sais pas s'il a pris sa vitesse de croisière au plan économique, de diffusion, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce qui le rend spécifique par rapport à d'autres publications de la famille, entre guillemets, il a vraiment sa place, toute sa place, et une place très particulière, si je peux me permettre de vous dire ça.
Je vous en remercie beaucoup.
Non, c'est pas me remercier, c'est bon. J'observe, c'est tout. Hein. Ça aurait pu être une chose sans suite, sans vraiment beaucoup de Beaucoup de saveurs. En fait, là, il y a beaucoup de saveurs, parce qu'il y a quand même, bon, il y a dans le numéro, il y a le premier numéro, il y avait l'entretien avec, comme il s'appelle, Balambala, là. Bon, après, vous avez un ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères allemand qui conteste la thèse de l'écroulement naturel des tours jumelles de New York. Vous avez dans ce numéro un entretien avec Edith Cresson. Vous avez eu un entretien avec Denis Tillina qui passe quand même pas pour un fasciste extrémiste. Bon, ça veut dire que c'est
nous
quand même quelque chose de très
ouvert. Dans ce numéro, un entretien avec l'un des dirigeants du Parti radical valoisien,
oui. Gazli, ah, mais c'est intéressant.
Qui appartient à l'UMP.
Attendez, là, faut pas que je ris pas, j'enlève tout de suite le rire, parce que le type, il fait 2 mètres, il est champion de France de judo, donc.
De jiu-jitsu,
donc je préfère ne pas rire.
Très poli.
Rester très, très poli. Comme disait Oudia.
Donc, il est membre dirigeant du Parti radical valoisien de Borloo et Rossino, membre de l'UMP, et il fournit un argumentaire tout à fait intéressant sur les raisons pour lesquelles il ne faut en aucun cas voter pour Nicolas Sarkozy.
C'est intéressant. Là qui se battent entre eux maintenant. C'est très bien. Enfin non, c'est très bien, je m'en fiche de sa mère. Mais c'est assez très très intéressant, donc très vivant. Mais alors il y a toute la partie, je dirais la partie culturelle, parce que c'est quand même un journal avec une grande ouais. Dimension culturelle, très beaucoup de choses de bon, la littérature, le cinéma, le théâtre, les entretiens. C'est vraiment un bon numéro, donc c'est quand même 86 pages, hein, c'est ça, hein.
68.
Excusez-moi, faut que je change mes lunettes, 68 pages, et donc ça c'est vendu pour la modique somme de 6,50€.
Voilà. Et à chaque fois un grand reportage à l'étranger.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez pu lire celui de ce numéro, c'est sur la Somalie.
Ah, ça c'est très beau, c'est très bien.
Moi j'ai trouvé ce papier.
Ah, c'est très très bien.
Voilà.
Très très bien, c'est excellent, parce qu'on a beaucoup parlé de la Somalie depuis 3, 4, 5 semaines, parce qu'il y a des événements qui vraiment s'y sont produits. Moi j'avais vu...
s'y trouvait juste avant l'entrée...
Juste avant l'entrée des Éthiopiens.
Il est parti... 48 heures trop tôt.
Attends, j'ai vu deux reportages à la télé. Un
juste avant l'entrée des troupes américano-éthiopiennes, pour dire les choses clairement.
Moi, j'avais vu un reportage où on montrait comment se tenaient les tribunaux islamiques à Mogadiscio. C'était terrorisant. Et après, j'ai vu un reportage, alors c'est après la chute de Mogadiscio, j'ai vu un reportage qui a été tourné par des amateurs, une vidéo amateur, sur un jugement islamique. Alors c'est un type qui avait tué quelqu'un à coup de couteau, enfin c'est ce que dit le tribunal. Donc la loi islamique exprime que celui qui tue par le couteau doit être tué par le couteau. Voilà, donc on va vaut mieux tuer les gens à coups de rouge, parce que là, quand même, bon, c'est quand même plus agréable. Et alors, on voit un gendre ou un fils de la personne qui avait été tuée, qui est chargé d'appliquer la loi islamique, et qui, le mec est attaché avec des cordes partout, et l'autre le tue à coups de couteau. Tout ça devant une foule ébahie. Enfin, on est dans Apocalypto de Mel Gibson, quoi. Et il se reprend 9 fois. C'est effrayant, c'est des espèces de barbares monstrueux, c'est quelque chose d'invraisemblable. Donc le reportage est d'un grand intérêt.
Il est paru aussi d'un grand intérêt, parce que donc notre envoyé spécial est parvenu à se rendre dans l'un des centres d'entraînement présentés par les États-Unis comme étant un camp d'Al-Qaïda.
Donc
il a pu y aller, il a pu faire des photos, il a pu discuter avec les gens, etc. Et puis surtout, il raconte ce qu'il a vu.
Oui. Bon.
Et quand il raconte ce qu'il a vu, eh bien, on se dit soit les Américains n'ont pas donné la bonne localisation, soit ils fantasment un tout petit peu, parce que c'est une bande de charlots comme on en a rarement vu. Ce sont des combattants dépenaillés, armés d'épées de bois, quoi. Ce qui donne une vision un petit peu différente des bombardements qui ont eu lieu ces derniers temps et des raisons réelles pour lesquelles la Somalie a été envahie par l'Éthiopie.
L'Éthiopie, oui, ça c'est des vieux
problèmes. Quels sont les enjeux géopolitiques réels
Il y en a sans doute.
En cause là-bas.
Ceci dit, n'ayant pas non plus une admiration absolument intempestive pour l'impérialisme américain, je n'ai pas non plus une énorme sympathie pour les tribunaux islamiques, voyez-vous.
C'est une question de sympathie pour un camp ou pour un autre. Je ne veux pas me placer sur ce terrain-là.
C'est
simplement d'essayer de comprendre ce qui se passe et de raconter ce qu'on a vu en allant sur place et en y passant deux semaines.
Oui.
En ayant rencontré tout le monde. Est-ce que ce qu'on a vu, est-ce que ce qu'on a entendu, est-ce que ce qu'on nous a dit correspond à ce qu'on entend, ce qu'on nous en dit par ailleurs?
Mmh.
Bon, là, sur la Somalie, la réponse est non. Mmh. Voilà, maintenant, mon propos n'est pas de savoir qui a raison, en tout cas, s'il y a un camp du bien, un camp du mal ou deux camps du mal. On n'est pas dans une logique morale, on est dans une logique journalistique.
Oui, journalistique.
Qu'est-ce qui se passe? On le raconte.
On rencontre. Alors, je rappelle quand même donc que ce numéro est en vente à peu près partout, hein, c'est 6,50 €. Alors, il y a une chose tout à fait extraordinaire, c'est que maintenant, on peut trouver, grâce à un site d'LMPP, les endroits près de chez soi où le n'importe quel journal est mis en vente. Alors, ça vaut aussi pour Le Choc du Mois, qui est un journal à part entière comme les autres.
Hein. Tout à fait, ça s'appelle
trouverlapresse.com. Voilà,
trouverlapresse.com.
C'est un service des messageries de la presse parisienne. Et alors, comme ça, on clique, on dit où on dit voilà, je cherche tel titre. Ils vont vous dire tous les kiosques ou marchands de journaux, maisons de la presse.
Ah bah, on écrit le nom du journal qu'on cherche. On écrit l'endroit où on se trouve. Et apparaît à l'écran, lorsque c'est à Paris, tous les points de vente où ce journal est en vente, dans un rayon d'un kilomètre,
voilà.
Avec la carte, avec les adresses des points de vente. Et pour la province, le rayon est plus large, je crois que c'est dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres pour la campagne.
Ben c'est parfait.
Donc là, ça devient extrêmement facile de trouver le journal que l'on cherche, et en l'occurrence, Le Choc du Mois.
Voilà.
Il est évident qu'on ne peut pas être présent dans les 36 000 points de vente de France. Que dis-je, 29 300, pardon, je confondais avec le nombre de communes. Pour savoir où nous trouver, trouverlapresse.com et on nous trouve.
Alors, je rajoute juste, parce que c'est pour vous faire plaisir, j'aime bien me faire l'auto-promotion.
Alors, moi, justement,
fait un truc parce que...
il reste quelques instants,
qu'on
inverse les rôles. Et, cher Daniel, je crois que vous avez collaboré ce dernier numéro du Choc du Mois pour un article tout à fait intéressant intitulé Jeanne d'Arc a conquis l'Amérique.
C'est extraordinaire.
Les Américains s'intéressaient à Jeanne d'Arc, et en quoi Jeanne d'Arc est-elle importante dans la culture et l'imaginaire américain?
Eh bien, ça, vous le découvrirez en lisant le numéro. Oui, cet article.
Oui,
je vais le dire. Mais c'est très intéressant, parce que, d'abord, parce qu'il y a eu deux expositions aux États-Unis à la fin de l'année dernière et au début de cette année, l'une qui est encore pas tout à fait finie, autour de Jeanne d'Arc, une à Boston et une autre à Washington. Bon, une plus artistique, l'autre un peu plus anecdotique, mais très intéressante. Donc, deux expositions sur Jeanne d'Arc, quasiment en même temps aux États-Unis, c'est énorme. Et alors, on nous explique, les Américains nous font comprendre que Jeanne d'Arc, elle a un double intérêt pour les Américains. C'est d'abord, elle est la pure héroïne qui a chassé les Anglais de France. Et donc, il y a eu tout un courant intellectuel, littéraire, poétique aux États-Unis, juste après la guerre d'indépendance contre les Anglais, qui s'est emparé de Jeanne d'Arc comme d'une bannière, en disant, voilà, elle justifie le fait que nous aussi, on chasse les Anglais. Puis, un peu plus tard, elle a été également, elle est toujours aujourd'hui, la bannière du vote féminin. Elle est devenue l'héroïne femme, et donc l'héroïne du vote féminin. Et à ce titre, elle a des statuts absolument partout, enfin, c'est extraordinaire. Moi-même, j'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, Bruno, on avait fait un petit papier dans le numéro 2 du Choc du Mois, sur cette artiste américaine qui fait des médailles, et qui avait fait une petite médaille de Sainte-Jeanne d'Arc, défendez-nous dans les combats, métallique, qu'elle avait envoyée qui a été commandée par des milliers de juristes américains. Vous vous souvenez de ça, non?
Très bien.
Voilà, voilà. Bon, alors, c'est un bon numéro, très complet, honneur aux femmes. Moi, je préfère en dehors de la politique, mais enfin, bon, voilà. Chacun ses goûts. Bon numéro qu'on peut trouver à peu près partout, quoi. Donc, Le Choc du Mois, numéro 8, janvier 2007, 6,50 €. Merci, voilà. Cher merci. Bruno. Vous avez 30 secondes pour nous dire bonsoir.
Si vous voulez nous contacter, c'est 51 boulevard Garibaldi, 75015 Paris ou lechocdumois@lechocdumois.fr.
Bon, redonnez-nous l'adresse papier, hein, s'il vous plaît.
51 boulevard Garibaldi, 75015 Paris.
Mon cher Bruno, au mois prochain, sans doute, je ne sais pas trop quelle date, mais on se reposera dans le poste. Hein. Merci de votre coopération à Radio Courtoisie.
Merci à vous.
Et je donne rendez-vous à nos éditeurs tout de suite pour la seconde partie de l'émission.
Merci de passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie. Je vous rappelle qu'à 21h30, tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Paul-Marie Couteau pour son libre journal de la nuit. 21h30, 23h30, en direct tout à l'heure sur Radio Courtoisie. Tout de suite, la seconde partie du libre journal de Serge de Beckett, dirigé ce soir par Daniel Amiche. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier, sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beckett, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 17 janvier 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 18 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85. Par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à contact@radiocourtoisie.com.
Eh bien, rebonsoir à nos amis auditeurs qui nous font l'amitié de rester avec nous pour la seconde partie de cette émission, donc qui sera consacrée, comme je vous l'ai dit en première partie, au thème extrêmement compliqué. Nécessité et difficulté de la restauration de la liturgie traditionnelle dans les diocèses de France.
Si vous dites tout de suite que c'est compliqué, je sens qu'il y en a qui vont
appuyer
sur le bouton.
On décroche.
Non, pas compliqué à comprendre, pas compliqué à comprendre, mais compliqué. Je vais demander à Pierre d'avoir la gentillesse de se mettre peut-être sur ce fauteuil-là. Pierre Wouters veut absolument rester avec nous parce qu'il trouve que c'est absolument passionnant. De telle sorte de laisser le siège pour le quatrième invité qui arrive, ce qu'on nous apporte en même temps. Alors, nous avons l'arrivée d'un autre prêtre, nous avons trois verres et une cruche d'eau. Et puis une autre cruche qui est derrière le micro, mais enfin c'est assez spécial, ça l'on connaît quand même depuis déjà quelques années. Alors je vais demander à monsieur l'abbé Jaïr de passer par ici. Vous, Pierre, vous mettez là. Si, voilà. Excusez-nous, on fait ça en direct, comme toujours, c'est un peu compliqué, mais on va tout à fait s'en sortir. Alors, voilà, Pierre, vous prenez Zana. Monsieur l'abbé, vous vous mettez dans le fauteuil et vous aurez droit à ce micro. Et puis, on va... voilà. Donc, alors, je présente mes invités.
Non,
pas tout de suite. Non, les invités tout de suite. Bon, d'accord.
Monsieur, je croyais qu'on devait faire les annonces.
Oui, mais je dis simplement quels sont les invités qui sont là. Puis après, nous faisons toutes les annonces, parce qu'on a un gros paquet d'annonces. Hein. Le mois de janvier est un mois qui n'est pas seulement consacré au sol, mais qui est extrêmement chargé chez nous. Il y a beaucoup, beaucoup de manifestations. Donc, dans l'ordre, je vais commencer peut-être par représenter celui qui nous fait l'amitié d'être là ce soir et que je n'avais encore jamais reçu dans mon émission. C'est monsieur l'abbé Armand de Malleret, qui est donc le secrétaire général de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre.
Puis, secrétaire général général ou bien du district?
Non, de là-haut.
Vous êtes la fraternité.
Oui. La fraternité, en Suisse. C'est une très, très haute personnalité. En Suisse aussi, comme d'autres, vous voyez ce que je veux dire.
Le malheureux.
Et il s'appelle, c'est aussi un de Malleret, mais pas, voilà. Il y en a qui s'appelle Armand, l'autre c'est ici. Alors, donc, nous avons monsieur l'abbé qui vient de parler parce qu'il aime bien, donc monsieur l'abbé Grégoire Cellier, qui est prêtre, membre de la fraternité sacerdotale. Un pilis.
Sans titre et sans ronflant.
Mais de toute façon, tout ce que vous dites va vous engager, mon cher. Hein. J'espère que vous allez un bon chapeau mexicain. Ensuite, nous avons donc monsieur l'abbé, je suis méchant. Hein. Monsieur l'abbé Benoît Jaïr, qui lui est prêtre de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, et qui est le provincial de France de l'ICRSP. C'est ça? Bien. Et enfin, nous avons monsieur l'abbé Guillaume de Tanoir de l'Institut du Bon Pasteur, qui lui est assistant du supérieur général.
Oh là là.
Ah oui, c'est ce que vous m'avez dit au téléphone.
Oui, mais vous voulez des titres, mais bon.
Ah bah il faut des titres. Il n'y a que le pauvre signé.
Moi, je revendique d'avoir aucun titre.
Avec ces titres ronflants, vous allez faire ronfler l'audience.
Non, mais c'est bien, parce que ça montre que vous êtes des gens quand même responsables. Alors, nous allons passer à avec la bonne volonté.
Oui.
Et voulez-vous quand même être à ce que vous avez
votre travail? Mais je suis en train, je vous attends.
Au prix que vous me coûtez.
Je vous attends.
Elle vous dévore des yeux.
La prochaine fois que vous parlerez de prix, vous serez
Puisqu'il y a ici quatre amis prêtres, je voudrais dire une petite nouvelle qui m'a beaucoup attristé. C'est le décès de l'abbé Franco-Ex, que vous avez bien connu, vous, monsieur l'abbé Jaïr. Je pense que beaucoup ici le connaissaient. Et alors, on me prie de célébrer qu'une messe sera célébrée par vous-même, monsieur l'abbé de Tanoir. Hein.
Oui.
Jeudi prochain, à 19h, au centre Saint-Paul, rue Saint-Joseph.
Voilà, 12 voilà. Rue Saint-Joseph.
Je tâcherai, c'est le jeudi, c'est peut-être le jeudi 18 et 7, 25.
Ne parlez pas de chiffres.
25 janvier.
Enfin, c'est jeudi prochain, c'est demain.
Ah, c'est demain soir?
Oui.
Ah, demain soir. Bon,
c'est demain.
Alors,
demain.
À quelle heure, monsieur l'abbé? Parce que, à 19h.
À 19h.
Je tâcherai d'y être. Une réunion avant, mais je tâcherai d'y être. Également.
Non, je crois que, l'abbé Coeck, c'était quand même, un très grand liturgiste.
Très grand liturgiste.
Il est aujourd'hui devant l'Éternel, mais, un des rares à posséder ce savoir absolument inutile et somptueux, oui. Qui est le savoir liturgique. Je crois que le pape cherche un grand cérémoniaire.
Il eût pu faire...
Il eût pu faire office en d'autres temps.
Enfin, de toute façon, il aurait fait mieux que Monseigneur Marini. Alors, il n'y a pas de mal. Hein, c'est n'importe. Même moi, je ferais mieux, d'ailleurs, je pense. Alors, également, une autre... Ça, c'est moi qui le fais, parce que c'est normal, c'est un parent à moi, donc je suis obligé. Donc, le mardi 6 février 2007, à 19h, à la maison Saint-François-Xavier, 7 rue de Poitiers, Paris 7e, Monsieur Yves-Marie Adeline, vieux camarade à moi, donnera une conférence à 19h sur les impasses de la modernité musicale. Yves-Marie Adeline, c'est un homme politique, poète, musicien, dramaturge, très mauvais peintre, romancier, essayiste, enfin c'est un...
Mais
très mauvais peintre.
Mais bon poète, moi je dirais. Hein.
Très bon,
enfin,
très
j'ai,
bon poète.
J'ai beaucoup aimé les recueils qu'il a publiés.
J'ai dit simplement qu'il était mauvais peintre. Voilà, c'est pas calomnier. Voilà. Le reste, il a beaucoup de talent, mais pour la peinture, c'est pas ça. Mais voilà, mais il est très gentil, je l'aime beaucoup. Alors maintenant, je laisse la parole à Victoria et de Servat Bédi. Elle va nous en lire tout un paquet.
La Société historique de Garches vous invite à son exposition consacrée à Saint-Louis en toute confidence. Cette remarquable exposition se tient simultanément au presbytère et en mairie, à la mairie de Garches donc, jusqu'au 24 février prochain. Le Cercle d'amitié française de Paris et Bernard Anthony organisent une soirée de rencontre avec le colonel Jacques Hogard qui prononcera une conférence sur le thème « Ma vérité sur le Rwanda, l'armée française, 60 jours dans la tourmente ». le jeudi 18 janvier à 19h30 au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e. La soirée sera comme d'habitude suivie d'un buffet et permettra de discuter avec l'auteur qui dédicacera également son ouvrage « Les larmes de l'honneur ». Participation aux frais 8 euros, étudiants chômeurs 4 euros. Alors, le duc de Beauffremont et les membres du comité de Mémorial de France à Saint-Denis annoncent la messe qui sera célébrée le samedi 20 janvier en la basilique royale de Saint-Denis à la mémoire de Louis XVI, roi de France et de Navarre, messe à midi précise. Samedi prochain 20 janvier, de 15h à 18h30, Laurent Glosy éclaircira le mystère de la race des géants à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Le samedi 20 janvier à 20h30, concert en l'église de la Madeleine avec le Requiem de Cherubini en mémoire de Louis XVI, chœur et orchestre Paul Kuenz.
Très beau Requiem.
Messe de Requiem pour Marie-Antoinette, place de la Concorde, dimanche 21 janvier.
Je pense que c'est pour Louis XVI, non ?
Oui.
21 janvier, c'est plutôt... Mais là, c'est marqué Marie-Antoinette.
C'est gros, hein. Bon, ouais, place de la Concorde, dimanche 21 janvier.
C'est fautif.
À 15h30 par l'abbé Néry. Bon.
C'est toujours incroyable de voir cette messe sur la place de la Concorde avec les touristes qui passent, les voitures, les autobus, et puis il y a des gens qui sont... C'est quelque chose d'assez... tellement décalé que ça en devient... sublime, quoi. Je trouve ça... Non, je pense, c'est mon opinion, je la partage.
Et... C'est notre devoir de mémoire aussi.
Ouais, mais non, mais attendez, bon, ça va, les messes Louis XVI, bon, mais c'est beaucoup aussi, mais je veux dire que c'est tellement voir ce moment de mémoire dans une foule qui semble ne pas en avoir, il y a quelque chose d'assez... le rapprochement est assez troublant, quoi. C'est beau ce que je viens de dire. Bon, alors.
Le Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, Paris 2e, vous invite à la conférence de Martin Pelletier sur le thème « Les Mayas, la légende noire » de Mel Gibson, le mardi 23 janvier à 20h.
C'est un petit bouquin, il a fait un petit bouquin magnifique, je ne sais pas si vous, certains d'entre vous l'ont lu, le petit bouquin là chez Renaissance Catholique, ben, on recevra Martin le 7 février ici à la radio, c'est remarquable, c'est un bon travail de Martin, vraiment c'est bien ça, c'est très bien.
Au Forum catholique.
Au Forum donc catholique. C'est sur le film sur de Mel Gibson, Apocalypto, qui est en ce moment
que je suis allé
sur les
voir. Voilà. Moi qui ne vais jamais au cinéma, je suis. Vous savez bien, j'ai vu deux films là en 3 semaines. Moi qui ne vais jamais au cinéma, j'ai vu Le Grand Silence de l'Allemand Gröning que j'ai enchanté de ce film. Pour moi, c'est un film qui m'a bouleversé en plan spirituel. Bon, pas toujours la vie des collaborateurs du Libre Journal de Serge Beckett, mais moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis l'Apocalypto que j'ai beaucoup aimé et que j'ai envie de revoir parce qu'il y a des petits détails qui m'ont un peu échappé. C'était le matin pourtant et je n'avais pas pu.
Daniel. Alors au Forum catholique dont je n'ai pas l'adresse mais vous l'avez sûrement cher Daniel.
Parce que le Forum catholique c'est un site internet. Leforumcatholique.org.
Votre petit camarade ne l'a pas donné. Alors lundi 22 janvier à 18h30 avec l'abbé Barthes et oui. Le jeudi 25 janvier, présence exceptionnelle de l'écrivain Maurice G. Dantec. Il n'y a pas d'heure, mais c'est peut-être à 18h30 aussi, on a nos chances.
C'est en soirée, c'est à peu près c'est de 18h30. Alors quand il y a des débats comme ça, c'est un forum dans le forum. Hein. On pose des questions et les personnes qui participent au forum répondent en direct. J'ai participé à ça, bon, jusqu'à 10h30, 11h. Moi, 11h, je dis, bon, bah, écoutez, je vais me coucher maintenant parce que je suis fatigué. C'est très intéressant. Lundi soir, c'est le camarade Barthes qui s'y colle et ça va être aussi très passionnant. Il regarde de ne pas être avec nous ce soir, mais il est chez Monseigneur Vac. Il donne des cours à Pecciano. Voilà. Mais voilà, donc il n'est pas là aujourd'hui. La raison de son absence, qui est très remarquée.
Alors, rappelons que c'est à Cotignac, dans le Var, qu'ont eu lieu, donc, je ne sais pas trop, là, des apparitions de Notre-Dame de Grâce avec l'enfant Jésus et Saint-Joseph. Alors, une journée de découverte de Cotignac et de ses sanctuaires vous est proposée le samedi 3 février à Paris, à partir de 14h à la chapelle Saint-Paul, 95 rue de Sèvres, Paris 6e, entrée libre, accès métro Vanneau et Sèvres-Babylone. Pour plus d'informations, Madame Marie-Claire Hamon, Fallot, au 06 85 66 49 60. Vous pouvez aussi consulter notre site, dit-il, www.nd-de-grâce-au-pluriel.com. Voilà, c'est
tout. Eh bien, je vous remercie. C'est une raison pour me foutre des lions. Je n'ai rien fait.
Parce que c'est une message. Où sont mes messages?
Il n'y en a pas de message. Messieurs les abbés, bonsoir. Moi, je suis très content de vous avoir tous dans cette émission, avec toutes les spécificités qui sont les vôtres, les différences, parfois les oppositions, mais au moins tous unis sur la nécessité de défendre et de répandre la messe dite de Saint-Pie V. C'est une chose importante. Il y a là effectivement des représentants de quatre fraternités différentes. L'une, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, est un peu en délicatesse avec l'autorité romaine. J'essaie d'utiliser des mots choisis. Bien. Mais
elle a un rôle essentiel dans la défense de la tradition catholique.
J'allais le dire, monsieur l'abbé, je vous remercie beaucoup, monsieur l'abbé de Tannoy. Le rôle qu'elle a eu était un rôle fondamental, et le rôle qu'elle joue encore aujourd'hui est un rôle d'une grande importance. Mais, entre-temps, se sont créées d'autres fraternités. Certaines sont reconnues de droit pontifical, c'est le cas de la Saint-Pierre, de la Saint-Pierre, c'est aussi le cas de l'Institut du Bon Pasteur. D'autres ne sont pas de droit pontifical, sont de droit diocésain, voilà, l'Institut du Christ aura souverain prêtre, et donc dans le diocèse de Florence, et de droit diocésain. Alors, vous voyez, il y a donc beaucoup de choses différentes, d'histoires différentes. Il y a, je crois, un même amour pour la liturgie traditionnelle chez tous, sans aucun doute. Et peut-être avec des petites nuances, mais qui sont infinitésimales. Un goût, une volonté missionnaire des uns et des autres de la voir se développer et de la voir enrichir la vie liturgique des fidèles catholiques, ce qui est, je pense, même aussi le point de vue du Saint-Père, Benoît XVI, me semble-t-il, vous m'arrêterez, messieurs les abbés, si j'ai des bêtises, mais il me semble bien que c'est aussi de son aveu. J'avoue que nous avions espérer, quand j'avais eu l'idée de vous réunir tous les quatre et cinq, là, malheureusement, monsieur l'abbé Barthes est lui-même dans une fraternité qui s'appelle la Société des prêtres auxiliaires, je pensais que le motu proprio aurait été publié, puisqu'on en annonçait, c'est un peu comme, j'espère que c'est pas comme la lésienne de Bizet dont on parle tout le temps dans l'opéra, et puis finalement on ne la voit pas. Alors j'espère qu'on verra comme le Tuporio, je pense que oui, il paraît même que certains l'ont vu, de leurs yeux vu, enfin ça demande d'être vérifié. Mais dit bon, on pourrait peut-être faire un moment de retranchement si on ne l'a pas, pour en parler, peut-être sur l'instruction post-synodale sur l'Eucharistie. Le synode s'étant tenu à Rome en octobre 2005, puis le texte n'est toujours pas paru. Donc je crois qu'aujourd'hui, le mieux que nous ayons à faire, c'est de parler de votre expérience, des difficultés que vous, de la nécessité, sommes-nous bien tous d'accord sur la nécessité, et chacun va pouvoir s'exprimer, la nécessité donc de restaurer la liturgie traditionnelle le plus possible, sachant qu'elle ne pourra pas être hégémonique, ça c'est à mon avis une chose qui ne se peut, mais qu'au moins elle pourra influencer positivement la nouvelle forme du rite, pour parler romain. Et j'aimerais aussi que vous m'expliquiez les problèmes, les difficultés que vous avez, puisque tous avaient des difficultés. Pour la Saint-Pie, dites-moi, puisque vous avez décidé un peu de vous quittoiser, donc vous en fichez par vos a priori, vous fichez totalement de l'autorité diocésaine romaine. Mais on voit pour tous ces prêtres qui ont voulu jouer une autre forme de communion à l'Église, les difficultés qu'ils ont pour trouver des ministères, pour garder ceux qui leur sont parcimonieusement attribués, enfin, tout ça montre qu'il y a des difficultés. Alors, je voulais d'abord savoir, faire un premier tour de table, puis ensuite on va pouvoir lancer plus le débat, si nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est nécessaire, non seulement de maintenir la liturgie traditionnelle, mais de la restaurer dans tous les diocèses de France. Alors, je vais commencer par celui qui ne s'est encore jamais exprimé sur la courtoisie, c'est monsieur l'abbé Armand de Malray, de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre.
Il y a une nécessité de la restaurer dans tous les diocèses de France, c'est certainement un souhait, en tout cas, que nous avons. Je crois qu'il y a encore en France beaucoup de diocèses où cette messe n'est pas accessible, n'est pas proposée. Et il me semble que ça n'était pas la volonté du pape Jean-Paul II, qui en 88 a dit très clairement qu'il voulait qu'il y ait un accès justement facilité à cette liturgie. Je crois particulièrement dans le contexte de déchristianisation massive où nous sommes, avec aussi la raréfaction du clergé, il me semble important de ne pas négliger toutes les pistes, les possibilités qu'on a de proposer la foi aujourd'hui à nos contemporains. Et certainement, la liturgie traditionnelle, avec les vocations nombreuses qu'elle suscite, avec les familles, les petits-enfants, toutes les troupes scouts, enfin, toute cette vitalité du mouvement traditionnel, toutes tendances confondues d'ailleurs, est, je pense, un facteur qui doit être mieux pris en compte dans les diocèses. Et donc, certainement, il faut que cette liturgie retrouve, comme le disait le cardinal Castrillon-Noyos à Sainte-Marie-Majeure, son droit de cité.
Son droit de cité. Monsieur l'abbé Cellier, fraternité sacerdotale Saint-Pie-X.
Je dirais, certainement, les autres apporteront des harmoniques, ou ont déjà apporté des harmoniques intéressantes. Moi, je dirais deux choses fondamentales à mes yeux et aux yeux de la fraternité. C'est d'abord un patrimoine liturgique fondamental qui ne peut pas se perdre dans notre Église. Nous le recevons de nos ancêtres. Lorsque nous célébrons ces magnifiques offices, le mercredi des cendres, la vigile pascale, la fête de la Pentecôte, la fête de Pâques, nous sommes dans les basiliques romaines avec Saint Grégoire, Saint Léon, les moines bénédictins qui sont allés convertir l'Angleterre. Nous sommes dans un enracinement historique. La liturgie romaine traditionnelle, latine traditionnelle, est la plus ancienne liturgie encore célébrée aujourd'hui. Aucune liturgie orientale n'est aussi enracinée dans l'histoire de la liturgie. Donc ça, c'est quand même absolument fondamental. Le canon romain est attesté dans un livre de Saint Ambroise au IVe siècle, et ce n'est pas rien, n'est-ce pas, il est attesté pratiquement dans sa quasi-totalité. Donc un enracinement historique et un patrimoine qu'il serait grave de perdre. Ça, c'est le premier point, mais ce n'est pas, je dirais, le point fondamental pour nous, évidemment. Pour nous, la liturgie traditionnelle est l'expression de la foi, et nous estimons que la nouvelle liturgie, sur un certain nombre de points, pêche contre l'expression de la foi. Et en ce sens-là, cette liturgie est pour nous la liturgie qui porte, transmet et fait vivre de la foi la liturgie traditionnelle. Ce que malheureusement ne fait pas, en tout cas suffisamment ou de façon correcte, la nouvelle liturgie.
Monsieur l'abbé de Tannoir.
Moi, je voudrais, sans du tout contredire ce qui a été dit, apporter l'idée que la restauration du droit de la liturgie traditionnelle est une nécessité spirituelle pour le peuple de Dieu, parce que l'Église n'est pas seulement une grande structure qui produit des documents et dont les porte-paroles se produisent à la télévision régulièrement sur toutes sortes de sujets de société, du préservatif à l'immigration et retour. L'Église, c'est vraiment l'ensemble de ceux que Dieu appelle au salut. Il y a l'Église visible, il y a l'Église invisible. Heureusement, l'Église déborde ses limites, ses frontières visibles de ce point de vue. Et je crois que restituer aux fidèles la liturgie traditionnelle, c'est préparer les conditions d'un grand mouvement spirituel. Et à cet égard, je voudrais dire, on parle beaucoup des traditionalistes et on restreint peut-être un peu trop la liturgie traditionnelle aux traditionnalistes et aux groupes sociologiques qu'ils forment, car c'est vrai qu'ils forment un groupe sociologique. Je crois que bien au-delà de cette sociologie du traditionnalisme français, la restitution aux fidèles de la liturgie traditionnelle va avoir des conséquences qu'on n'imagine pas. Pourquoi on ne les imagine pas ? Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et je voudrais citer un fait. J'ai célébré il y a quelque temps dans une paroisse de banlieue un enterrement et j'ai été accueilli très bien d'ailleurs par un jeune curé avec lequel nous avons collaboré pour la cérémonie. Il a lu les textes de la messe en français, texte de l'épître, texte de l'évangile. Je le voyais regarder tout cela de tous ses yeux. Et puis j'ai eu une illumination, je me suis dit, mais finalement, il ne le connaît pas, ce rite. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez déjà vu célébrer la messe de Saint-Pie V ? Curé, il m'a dit non. J'ai fait la même chose à Rome la semaine dernière avec un haut dignitaire romain dont je tairai le nom, qui n'était pas spécialement de la mouvance traditionnelle, assez jeune. Et je lui ai dit, mais de toute façon, vous ne le connaissez pas, Street, vous ne l'avez jamais célébré. Donc il me semble, si vous voulez, que cette question de la messe traditionnelle, elle est d'abord, elle est devenue un problème, elle est devenue un point de contradiction à cause de l'ignorance. Et il me semble que si, sur Radio Courtoisie, nous pouvons faire quelque chose pour la messe traditionnelle, c'est de faire prendre conscience de cela. Il faut sortir de cette ignorance. Et il faut que, très humblement, les prêtres, les évêques qui nous gouvernent, acceptent de sortir de cette ignorance, acceptent de reconnaître d'abord qu'ils ne savent pas, souvent, contre quoi ils s'opposent, et qu'ils n'ont jamais célébré véritablement cette messe, pour beaucoup d'entre eux, et acceptent de considérer par ailleurs, et c'est le deuxième point que je voulais développer, qu'il y a un droit imprescriptible de la liturgie traditionnelle, et qu'une église qui interdit ce qu'elle a considéré jusqu'alors comme sacré, est une église qui met en jeu sa crédibilité. Ce n'est pas de moi, c'est d'un certain cardinal Ratzinger. Donc, il me semble que pour la crédibilité de l'Église, on ne peut pas laisser plus longtemps maintenue cette interdiction de fait par les évêques français de la messe traditionnelle.
Monsieur l'abbé Jaïr, un commentaire sur ce qui vient d'être dit, ou votre propre opinion.
Après les brillants points de vue de mes confrères.
Oui, parle partout, très bien, très près du micro.
Il me semble que ce que l'on peut dire, c'est que, de toute manière, le retour, entre guillemets, de la messe traditionnelle est inéluctable. Si vous regardez les chiffres, on n'est pas là pour donner des chiffres, on a trop souffert de toutes ces constatations sociologiques, mais aujourd'hui, en France, du moins, la proportion sur les pratiquants de moins de 50 ans, les catholiques pratiquants de moins de 50 ans, la proportion des gens qu'on pourrait appeler les tridentins, même si cette expression est un peu inexacte, est croissante. Le nombre des vocations. Aujourd'hui, il faut bien se dire qu'en France, et ces chiffres ne sont pas de moi, je les ai lus et relus, à peu près 25% des séminaristes français, les séminaristes qui sont actuellement dans des séminaires, quels que soient les séminaires, diocésains ou autres, célébreront la messe traditionnelle. Donc le phénomène est incontournable, il était grand temps qu'on s'en préoccupe. L'attente dans laquelle nous sommes, il me semble qu'il faut, dans le fond, face à, on dit, est-ce que le motu proprio va sortir, est-ce qu'il ne sortira pas, bon, je crois qu'il faut ne pas rêver, toujours espérer, mais tout ça est bénéfique pour la question de la messe traditionnelle, parce qu'on en parle, on ose enfin en parler, et au moins, la période actuelle, mais on ne sait pas ce qu'il en sortira, mais au moins on aura parlé de cette question, et il me semble que depuis les années 70, le milieu des années 70, on n'avait jamais autant parlé de la messe traditionnelle qu'aujourd'hui. Et on aura beau faire le barrage, la nature est ce qu'elle est. Vous faites le barrage un certain temps, puisque c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au bout d'un moment, ça déborde. Et c'est ce qui se passera, tôt ou tard.
Alors j'aime bien cette explication, tout ce que vous dites est formidable, mais c'est peut-être que le pape, en fin de compte, retarde la parution pour qu'on en parle beaucoup par des effets d'annonce savamment distillés, de façon que les journaux s'en préoccupent et que ça fasse monter. Il y a un peu comme un système, vous les appelez, la campagne des sans-fleurs. Vous voyez, c'est laisser parler les gens pour voir un petit peu les têtes qu'on va pouvoir. Bon, c'est peut-être intéressant. Alors, tout ce que vous avez dit est intéressant, mais il y a un point très important que vous avez tous évoqué d'ailleurs. C'est les vocations qui sont effectivement très nombreuses. Dans les milieux traditionnels, traditionnalistes, très très nombreuses. Le problème est un problème grave. C'est que vous êtes tous les quatre des prêtres français. Il y a beaucoup de jeunes français qui ont reçu l'appel du Seigneur et qui veulent se former au sacerdoce, qui veulent le faire de la manière la plus traditionnelle possible, y compris dans la liturgie, par laquelle ils entendent rendre grâce à Dieu. Le problème, c'est que pour rentrer dans un séminaire, eh bien, ils ne peuvent pas rentrer dans un séminaire en France. Il y a donc un séminaire en Suisse, puis aux États-Unis, puis un peut-être pour la Fraternité Saint-Pidis, un autre, vous en avez un troisième séminaire peut-être au...
En Amérique du Sud en Amérique et du en Sud, Australie.
En Australie, en Amérique du Nord.
Voilà.
Et donc en Suisse.
Avec la première année en France.
Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, vous avez un séminaire en Autriche, en Bavière.
Si j'entends par séminaire, vraiment la formation intégrale.
Formation intégrale.
Donc ça, nous avons Vigrasba, le séminaire international Saint-Pierre en Bavière, et puis le séminaire Notre-Dame de Guadeloupe aux États-Unis, au Nebraska. Les deux donc offrent une formation intégrale en français ou en allemand pour la Bavière, et puis en anglais pour l'Amérique, avec deux maisons, disons, de discernement vocationnel. Enfin, l'une qui est un petit peu en suspens, on va dire, qui était à Lyon, à Francheville, et puis l'autre qui est à Sydney, accueillie par le Cagnal Pell, la maison Ézéchiel.
Pour l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, le séminaire est en Italie, est à Florence. Alors, l'Institut du Bon Pasteur, c'est quasiment le petit Jésus de la crèche, quoi, vient de naître, là. Donc, vous n'avez pas de séminaire.
On a un séminaire qui vient de naître, si, oui. Enfin, disons qu'évidemment, il n'est pas encore reconnu dans toutes les formes, mais si vous voulez, il y a actuellement 7 séminaristes qui se forment très sérieusement, et je peux en témoigner puisque je vais de temps en temps leur donner cours, qui se forment très sérieusement au sacerdoce et qui sont indéniablement des jeunes de très belle qualité. Donc ça se passe près de Chartres.
Ce que vous venez de dire, bien évidemment, moi je suis enchanté, mais ce que vous venez de dire ne condamne pas les propos que j'ai tenus, à savoir que, alors qu'il y a une demande au plan des vocations, parce que l'objection qu'ont fait un certain nombre d'évêques, en France, je parle que de la situation française, c'est de te dire qu'il n'y avait pas de demande pour la messe de Saint-Pie-V. Eh bien, évidemment, il ne peut pas y avoir de demande quand le produit n'existe pas. Mais ce n'est qu'à partir du moment où le produit est en magasin que par les miracles du marketing et du marketing de la Sainte Providence, les gens sont attirés par ce qui existe. On ne peut pas être attiré par ce qui n'existe pas. C'est idiot. C'est-à-dire que cette objection épiscopale qui a été la plus souvent répandue, avant que maintenant on passe à des choses un peu plus théologiques, de communion, problème de pastoral, c'était qu'il n'y avait pas de demande. Or, là, nous avons, objectivement, les documents ont été fournis aux évêques français lors de l'assemblée plénière de Lourdes d'avril dernier, me semble-t-il, sur l'état des vocations traditionnelles au sacerdoce. Eh bien, nous n'avons pas de séminaire en France qui forme des jeunes à la liturgie traditionnelle.
Et je pense que
nous l'avons. Écoutez, arrêtez-moi si je dis des bêtises, nous n'en avons pas. Monsieur l'abbé...
Nous le regrettons beaucoup, bien sûr.
Il y a eu la question de Francheville,
Oui, nous, à la Fraternité Saint-Pierre, mon travail, c'est plus les chiffres, justement, pour nos vocations. Et sur les 7 dernières années, donc de 2000 à 2006 inclus, nous avons eu près de 14 prêtres ordonnés chaque année. C'est une moyenne annuelle. 14 prêtres pour le monde entier, dont près de 5 Français par an depuis 7 ans. Et ces prêtres français qui viennent de France, qui vont se former à l'étranger, la plupart d'entre eux en Bavière, effectivement, auraient bien aimé pouvoir faire leur formation en France. Bon, ça n'a pas été possible. Il y a peut-être providentiellement d'autres avantages, et je suis sûr que l'abbé Jaïr pourra en parler aussi. Le fait de prendre une décision forte de quitter son pays pour aller se former suppose d'avoir bien mûri les raisons de son engagement.
Oui, oui, bien sûr, mais alors, je ne sais pas, l'abbé Jaïr, oui.
J'ai assisté à la naissance de notre institut, de notre séminaire. Nous n'avons pas la même généalogie que
nos
frères, ce qui nous permet d'ailleurs une grande liberté. On les accueille volontiers dans toutes nos maisons, pourtant qu'ils veulent bien venir. Moi, j'ai remarqué, j'ai constaté en cours de cette histoire, de cette naissance, maintenant le séminaire est bien développé, c'est qu'en réalité, soyons honnêtes, on ne s'est pas installé en France en raison de l'opposition farouche de l'épiscopat français. Pour eux, c'était une gifle impossible à digérer. Et dans la vie, souvent, ceux qui s'opposent violemment à vous, il faut avoir le sens providentiel de l'histoire, à long terme, je dirais, ils sont vos bienfaiteurs. Ça nous a permis de former nos séminaristes dans la paix, pas trop loin de Rome, loin des querelles franco-françaises. C'est sûr que nous avons chez nous une majorité de Français. Ça a donné à nos petits Français, qui sont des bons garçons, une vision peut-être plus large, plus universelle de l'Église romaine. ça fait pas de mal de faire son séminaire avec d'autres catholiques qui sont américains, japonais, allemands, autrichiens, belges, toutes sortes de nationalités sous le soleil du bon Dieu. Et finalement, tout ça a tourné, je dirais, à notre avantage. Parce qu'ensuite, nous avons pu revenir en France, nous sommes maintenant implantés dans 13 diocèses français, et puis nous sommes bien sûr assez présents à l'étranger, mais tout ça fait que ça a contribué à dépassionner la situation. Vous comprenez, si vous êtes italien, bon, bah, il prenait de ne pas faire comme les autres, et finalement c'est bien pratique. Donc, nos seigneurs les évêques n'ont pas voulu de nous, il y en a d'autres qui ont été rejetés, hein, à commencer par notre divin maître. Il faut se dire que peut-être est-ce un bienfait parce qu'en France, le débat idéologique est très fort et qu'on ne forme pas des séminaristes dans la tourmente. Il faut les former dans la paix, l'amour de l'Église, de la messe, du sacerdoce, et que finalement c'est ça qui compte. Et après, le bon Dieu utilise toujours les incohérences des hommes pour faire de grandes choses. Mais ça, c'est à lui que ça appartient.
Monsieur l'abbé Cellier, patronne sacerdotale de Saint-Pédis.
Une petite note, je pense quand même que Mgr Lefebvre surplombe tout cela. Et il y a une chose intéressante dans les statuts de la fraternité Saint-Pédis. C'est une des choses très innovatrices qu'il a fait. Séminaires tous internationaux. Donc, il a voulu que les séminaires, pas les districts, hein, mais séminaires tous internationaux, et certainement pour voir cette catholicité de l'Église. Et donc, je crois que effectivement, les circonstances font. Je crois qu'un jour il y aura des séminaires traditionnels en France, ça finira. Mais dans ces séminaires, il y aura peut-être pas de Français, si je puis dire. Enfin, il y a cette volonté de rencontre avec des catholiques et des prêtres, des futurs prêtres de d'autres pays, qui n'est pas négligeable et qui correspond à une réalité d'aujourd'hui. Je veux dire, on peut plus aujourd'hui, même dans les diocèses, déjà ils sont dans les séminaires interdiocésains, on ne peut plus être le prêtre d'un diocèse, enfin, c'est très difficile avec les voyages, donc c'est une situation qui a de l'histoire et qui a effectivement des côtés providentiels, mais en même temps qui je pense correspond à la réalité de l'Église d'aujourd'hui.
Je voudrais peut-être juste dire aussi
rapide.
Que...
Oui, après je passe à la parole à M. l'abbé Tannoir.
Je rejoins l'abbé Cellier sur l'avantage du séminaire international. Par exemple, à propos de la langue latine qu'on utilise pour la liturgie, aussi un peu pour l'enseignement, il est certain qu'avec des gens qui viennent du monde entier, qui parlent un peu tous les idiomes comme à la Pentecôte, utiliser cette liturgie montre vraiment que c'est pas un combat idéologique, mais quelque chose de très pratique, de très fonctionnel finalement, qui marche très bien.
Avez-vous des cours en latin ? Est-ce qu'on donne des cours en latin ou on apprend le latin ?
Alors, nous apprenons le latin pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Nous avons, disons, comme ouvrage de référence la somme théologique dans le texte, en latin, avec le droit, bien sûr, d'avoir des traductions. Nous avons eu certains cours en latin. Je dois dire que moi, je n'ai pas eu la chance d'en suivre. Et on aimerait beaucoup améliorer ce point-là. C'est vrai qu'on nous appelle, disons, dans la tradition, justement, traditionnelle ou conservateur. Et on est un peu honteux parfois de pas bien parler ou pas bien comprendre le latin.
C'est prise de position admirable de foi dans l'Église universelle, dans le latin qui est la langue de l'Église pour son poumon occidental en tout cas. Mais il me semble quand même que la tradition ne doit pas former ses prêtres dans des conservatoires éloignés des paroisses. Et que le blackout qui est fait sur toute possibilité d'ouvrir un séminaire de rite traditionnel en France n'est pas du tout là au hasard. En fait, il s'agit de faire des défenseurs de la liturgie traditionnelle, de gentils animaux de zoo ou de jolis bibelots de musée, éloignés de la vie concrète des communautés, alors que c'est quand même dans les paroisses, dans les communautés réel que coule le sang de l'Église et que passe la vie du Christ.
Je vais pas donner, c'est un très bon thème que vous, vers lequel vous orientez, mais je rappelle comme le thème de cette soirée, c'était nécessité difficulté de la restauration de la liturgie traditionnelle dans les diocèses de France, autrement dit dans les paroisses.
Je crois justement que c'est ça qui est important, c'est alors, que nous n'avons pas à faire de la tradition catholique un objet de musée.
Bon, on va, si vous voulez, on va encore prendre un sujet qui ne fâche pas, et après je crois on va aborder un sujet qui va fâcher. Bon, le sujet qui ne fâche pas et sur lequel on va tous être peut-être d'accord, c'est de féliciter, enfin pour moi je le fais, hein, je ne fais pas en votre nom, vous direz si vous voulez, vous associez à moi ou pas, moi je félicite la Fraternité Sacerdotale Saint-Félice d'avoir fait un DVD absolument extraordinaire sur la messe de Saint-Félice. Moi j'ai trouvé ça très bien, je trouvais que c'était une initiative formidable, d'autres en avaient eu l'idée, vous l'avez fait les premiers, bravo messieurs, félicitations parce que ça ne peut faire que du bien. Et je crois que c'est un certain succès.
Je précise que c'est un DVD donc pour les prêtres pour apprendre à dire la messe, donc qui est très pratique, etc. Mais qui est aussi, et je crois que c'est important, qui est très beau, qui est esthétiquement.
Et pourquoi vous ne le vendez pas à nous les laïcs? Parce que moi j'aimerais bien regarder, parce qu'il y a des trucs qui m'échappent, vous comprenez. Voilà, c'est très intéressant. Regardez comme justement ça, pour offrir des sous.
Déjà.
J'arrive pas à l'avoir. Ils nous ont filé un truc. Il y a trois trucs.
Je l'ai regardé. J'en avais une petite. j'ai arrêté de le regarder parce que ça me donnait des scrupules sur la façon dont je dis la messe. Oui. Donc c'est très mauvais, mais ça serait encore pire si les laïcs pouvaient le voir, parce qu'ils seraient là à dire « Ouais, le prêtre, il fait pas comme ci, comme ça, donc c'est un hérétique. » Non, c'est un instrument pour les prêtres, pour découvrir, pour aider, parce qu'un simple livre, c'est difficile à apprendre à lire la messe avec un simple livre. Nous l'apprenons dans chacun de nos séminaires avec quelqu'un qui nous enseigne. Là, avec un livre, si le prêtre dans sa cave apprend à dire la messe traditionnelle, un prêtre de diocésain, eh ben il a les livres et il voit comment ça se réalise. Mais j'ai apprécié, contrairement à nos confrères allemands qui ont été les premiers à mettre ça mais qui ont fait avec les moyens du bord, là, il y a une dimension esthétique.
C'est de très grande qualité, voilà, hein, c'est magnifique. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour féliciter la Saint-Pilice d'avoir fait ce travail qui est au service de la liturgie traditionnelle pour tout le monde, pour une fois qu'on peut être d'accord, monsieur
En huit langues, en huit langues.
De Malraix, vous êtes...
J'ai pas eu la chance de voir le DVD.
Bah alors...
Je suppose qu'entre Maison Générale en Suisse, on va certainement s'en envoyer un. je serais très heureux de le visionner, et je pense que c'est effectivement une très très bonne idée d'avoir un support interactif comme ça, surtout si, comme vous l'avez dit, monsieur l'abbé, les choses sont belles.
Oui, c'est beau,
il est important vraiment de pas avoir
parce
simplement l'exactitude
hein.
des rubriques, mais aussi évidemment la beauté, la splendeur du rite. Enfin, je suppose que c'est évidemment une messe basse d'un prêtre. Oui.
C'est une messe basse d'un prêtre. Vous avez le découpage, vous avez la partie apprentissage, le découpage de chaque action avec des explications en voix off, et vous avez une messe complète pour pouvoir appliquer la chose.
C'est très bien. Monsieur l'abbé Tannoir, vous êtes d'accord aussi pour dire que c'est bon, ça va, quoi.
C'est évident que. Et ça va justement contre l'ignorance universelle qui entoure ce rite, finalement.
Monsieur l'abbé Jaillère, vous êtes...
C'est une très belle initiative et qui montre bien aussi que nous n'avons pas à craindre que la liturgie traditionnelle reste dans un conservatoire ou sous une cloche de verre. Et de toute évidence, je vois régulièrement des jeunes prêtres diocésains qui sont intéressés par cette liturgie, qui n'ont pas été formés à ça, et ce sera l'instrument qui leur
sera. Ça peut être un outil, etc. Alors, je vais donner quand même la parole un tout petit peu à nos auditeurs, parce qu'ils ont le droit, surtout quand ils cotisent. Ah ben non, d'ailleurs, il y a quelques cotisants qui devraient envoyer des messages.
Une auditrice vous dit, à la suite du passage de l'abbé de la Roque à Radio Courtoisie, proposant le CD-ROM, je suis allée voir un prêtre de paroisse. Il m'a dit qu'il avait accepté ce CD-ROM, mais il est très opposé à la Fraternité Saint-Pilice en raison de l'excommunication. Et pour l'instant, de toute façon, ils ne peuvent décider de célébrer la messe de Saint-Pie V à cause du manque de permission de l'évêque du diocèse.
Alors je vais revenir là-dessus tout de suite.
Pouvez-vous, alors là c'est une question pratique, pouvez-vous m'indiquer s'il y a encore des messes tridentines à Francheville près de Lyon? Une auditrice
Il y a, enfin jusqu'à ce matin je crois en tout cas, il y avait toujours la Sainte Messe à Francheville près de Lyon, oui.
Alors, c'est une maison de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre.
Absolument.
Une auditrice un peu... Enfin, un peu peut-être étourdi, est-ce que la messe, selon le rite de Saint-Pie V, pourrait être célébrée en français?
Absolument. Il y a une version faite en 65.
Moi, je l'ai connue, moi.
De la messe traditionnelle en français qui existe et qui a été donc promulguée en 65, que je crois aucun de nos instituts n'utilise, mais qui pourrait être, pour un certain nombre de prêtres qui souhaiteraient reprendre la messe traditionnelle et qui connaissent absolument pas le latin, qui pourrait être un moyen terme, pas inintéressant. Donc, il existe un texte officiel de la messe traditionnelle en français, mais qui ne sont pas, théoriquement, d'après le motu proprio de 1984-88, qui ne sont pas les rubriques de 62 à proprement parler.
Que pensent les abbés du fait que Benoît XVI ait pris Kissinger pour conseiller? Enfin, vraiment, les gens faut pas écouter tout ce qu'écrivent les journaux, monsieur l'auditeur.
Moi, je crois quand même qu'il était significatif que Henry Kissinger se retrouve dans les bagages du pape pour préparer le voyage en Turquie, parce que c'est de ça qu'il s'agit précisément.
Oui, mais c'est pas un conseiller du pape.
C'est intéressant. C'est un petit signal qui demande à être.
Bon, alors moi, je voudrais.
Y a-t-il des prêtres de l'une ou l'autre des fraternités traditionnelles qui soient incardinés dans un diocèse français?
Alors, silence.
Il y a l'abbé Aulagnier qui est incardiné depuis toujours
à Clermont-Ferrand.
Mais bon, ce sont des accidents biographiques qui ont conduit à ces doubles incardinations. L'abbé Aulagnier, en tout cas, il est incardiné ab origine mundi, ou en tout cas depuis le début de son sacerdoce.
Le drame, c'est quand ces prêtres sont incardinés dans un diocèse, généralement, c'est parce qu'ils ont quitté, pour ne pas dire trahi, leur fraternité d'origine, comme ça s'est produit un certain nombre de fois ces derniers mois.
Voilà. Ça c'est dans ce sens-là, mais des gens qui sont dans les congrégations, disons dans les instituts, il y en a quelques-uns, mais c'est effectivement plutôt des restes de l'histoire plutôt qu'une chose ordinaire.
Nous avons
Monsieur l'abbé Jaillard, je suis obligé de le présenter, comme vous êtes quatre, on ne saura pas.
Nos prêtres sont incardinés dans l'Institut du Christ roi, mais nous avons aussi des prêtres diocésains affiliés qui sont incardinés donc dans leur diocèse, mais qui, désirant avoir une famille spirituelle, se sont affiliés à notre institut tout en restant incardinés et à la disposition de leur diocèse.
Mais monsieur l'abbé, quand vous dites incardiné, c'est spécifiquement que Mgr Vach est leur ordinaire propre. Je crois que c'était le diocèse de Florence.
Non, c'est l'institut.
L'institut incardine ses prêtres. Ah, je ne savais pas. Oui. D'accord. Nous, enfin, c'est également.
Moi, je ne suis pas prêtre du diocèse de Florence.
Oui.
Je suis prêtre de l'Institut du Christ roi, qui est de droit diocésain de Florence. Oui.
Et vous recevez donc votre célébrette de Mgr Vach.
Oui.
Ah, très bien. Bon, enfin, c'est notre cas à nous aussi, la Fraternité Saint-Pierre depuis le début. L'abbé Berg, notre supérieur général, donc, est notre ordinaire propre. Et donc, tous nos prêtres, où qu'ils soient dans le monde, s'ils sont incorporés de façon définitive, après quelques années de probation, bien sûr, eh bien, ils sont incardinés, donc, dans la société, au même titre qu'un prêtre diocésain est incardiné dans son diocèse.
Le problème, c'est qu'il y a la double nationalité dans l'ordre laïque. Il n'y a pas la double incardination, malheureusement.
Dans l'ordre ecclésiastique. Pour vous, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes.
Moi, je suis du 9-3, donc je ne suis pas sûr que Mgr Béranger ait absolument besoin de moi, en fait.
Mais il a tort. Que vous êtes une personne tout à fait charmante, au moins.
Ben moi, j'ai été baptisé à l'église de Rosaire à Saint-Ouen. Je veux bien desservir l'église de Rosaire, s'il veut. C'est une super grande église, en plus.
Était valide votre baptême, parce que...
J'ai été baptisé sous Pie XII, donc...
Ça ne nous rajeunit pas, tout ça.
Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens de ce côté-là de la table.
Bon,
les pierres commencent à pleuvoir.
Oui, mais c'est bien. Attendez, c'est pas fini, là, parce qu'on va lancer le débat. Ça va être rude, maintenant. Je vous raconte peut-être une petite anecdote avant, pour vous faire un peu réfléchir. Je crois que, monsieur l'abbé Gérard, vous êtes au courant de cette anecdote, mais je vous prierai de garder le secret le plus... Enfin, parce que je vais parler... d'un évêque français, bonne personne au demeurant, que j'ai eu l'occasion d'écouter, à qui j'ai surtout eu l'occasion de poser des questions. Il y a assez peu de temps. C'était pas très loin de la session d'automne, de l'assemblée plénière d'automne de la conférence épiscopale française. Dont un discours qui nous a fait, qui était intéressant, plus ou moins intéressant. Il a dit deux choses à quelques minutes d'intervalle, peut-être 5-6 minutes d'intervalle, tellement contradictoires que je n'ai pu que, comme je fais souvent d'ailleurs, de tout de suite lever la main pour poser une question. Il a dit d'un côté que, à son grand regret, ses frères évêques ne connaissaient rien au traditionnalisme français. que malgré les documents qui avaient été fournis pour la session d'avril, en gros par l'abbé Barthes et le Centre international d'études liturgiques de Merian, documents très intéressants, bons documents de travail.
Et par la fraternité, puisque nous avions fourni...
Vous aviez collaboré aussi, vous aviez envoyé un truc.
Nous avons remis à la conférence épiscopale, qui l'a remis à chacun des évêques, une description, une présentation de la fraternité Saint-Pie.
Bon. Donc ils avaient beaucoup d'éléments, etc. S'ils sont 4 ou 5 à avoir jeté un coup d'œil, c'est... Bon. Moi, j'ai été choqué. Parce qu'en principe, cette réunion d'avril s'est penchée sur cette question, à la demande du Saint-Siège, pression d'un certain nombre d'autorités romaines. Donc, devaient s'occuper de cette question-là. On leur a fourni les éléments, ils ne les ont pas lus. Donc, peut-être la science infuse, moi je ne peux pas savoir, peut-être un fil direct avec un truc, boum, ils savent tout de suite, c'est parfait, quoi. Ben, si c'était vrai, ça se saurait. Quelques minutes plus tard, l'évêque en question ne se livre pas une critique en règle, mais disons critique aimablement la commission ecclésiale romaine. Au motif que cette commission, dont je rappelle pour nos auditeurs qu'elle a en charge les traditionnalistes, pas seulement français, mais dans le monde entier, pour voir comment on peut les intégrer, les accueillir dans les diocèses et pater et couffins, que cette commission ecclésiale ne connaissait rien à la situation de l'Église qui est en France. Donc dans le même discours, on vous emmène pas dans une impasse, mais dans 2 impasses. La première, c'est que les évêques chargés de l'accueil des traditionnalistes en France ne connaissent pas le dossier. Ils n'ont même pas eu le courage de jeter un œil dessus. Et que, d'autre part, la commission ecclésiale chargée officiellement par le pape des traditionnalistes français, notamment, ne connaîtrait rien à la situation française. Ce qui n'est peut-être pas totalement faux non plus. Tout ça pose le problème de l'épiscopat français. Il faut peut-être mesurer, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais enfin, monsieur l'abbé Jaillard le disait tout à l'heure, avec beaucoup de retenue, mais le fait que l'Institut n'ait pas pu s'établir en France, c'est parce que les évêques étaient absolument hostiles, comme ils sont d'ailleurs hostiles, vous l'avez vu, nous l'avons vu, tous les Français ont pu le constater, c'était peut-être l'objet de la manœuvre d'ailleurs, était hostile à la promulgation d'un motu proprio dont ils n'avaient pas lu le début du commencement de la première ligne. Mais par définition, on était hostile. Ce qui pose quand même beaucoup de problèmes, parce que là, on n'est plus dans des questions de sensibilité liturgique, voire même d'utilitarisme pastoral. Là, on est quand même dans le domaine de la théologie. C'est-à-dire que... une théologie s'affronte à une autre théologie. C'est pas moi qui le dis, c'est les évêques français. Bon. Alors, le problème est celui-là. C'est un petit peu le problème que je soulève, à savoir que je veux aussi me mettre du point de vue, moi je suis laïque, mais je veux aussi me mettre du point de vue de l'évêque. À supposer qu'un évêque soit bien disposé pour la messe traditionnelle. Ça peut se trouver, hein. En France et ailleurs, ça peut se trouver. Donc pourquoi pas? Mes églises se vident, si ça peut en remplir un peu, moi je suis pas contre, hein. On comptera à la fin du dimanche, on comptera la quête pour voir ce que ça donne. Bien. Il n'a pas sous la main, dans son clergé diocésain, dans ce qu'il reste, de prêtres capables de célébrer dignement, convenablement, parce que c'est quand même une célébration qui ne suppose pas la médiocrité, comme la messe de Saint-Pie-V, elle est. Bon. Il n'a pas, actuellement. Donc, avant que ce puisse. Pourrait se former des prêtres diocésains, c'est pour ça que je reviens toujours à l'histoire de la formation. Hein. Il va être, s'il souhaite répondre à une demande particulière d'un groupe particulier de fidèles de son domaine, de son diocèse, il va donc demander à un prêtre d'une fraternité extérieure au diocèse, en l'occurrence la Saint-Pie-X, pour l'instant vous êtes peinard, mais un jour ça se tournera peut-être pour vous aussi, Saint-Pierre, Institut du Christ au Roi, bon pasteur, de demander un prêtre. Mais là, l'évêque, il a un petit problème, parce qu'il n'a pas de juridiction directe sur ce prêtre, en fin de compte. C'est un prêtre qui va être un peu, même s'il est à part entière, comme dirait l'autre, il est quand même un peu à part, puisqu'il relève juridiquement du supérieur de sa propre fraternité. Et ça, je veux dire que l'évêque, il n'est pas très pour. Vous voyez ? Alors, je viens de poser 2 questions. Ignorance, mauvaise volonté, bonne volonté, Problème juridique et d'autorité. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ce long tunnel que je viens de faire? C'est horrible.
Moi, il me semble que...
Alors, monsieur l'abbé Jaillir.
Tout d'abord, c'est vrai, nos évêques, moi je le vois bien, hein, quand on visite des évêques, vous avez un évêque... Par exemple, prenons le cas d'un évêque gentil qui écoute. Ça existe.
Hein? Non, non, mais il y en a.
Il vous dit, vous m'ouvrez des horizons. Alors moi, je pensais qu'ils connaissaient tout ça très bien. Pas du tout. Ils ne connaissent pas. Donc, il faut tout expliquer à chaque fois. D'où nous venons, qui nous sommes, etc. Et la difficulté pour un évêque aujourd'hui, c'est que finalement, il règne sur un clergé qui réduit d'année en année, mis à part quelques diocèses privilégiés, mais enfin, tous les diocèses sont en crise de vocation. Un évêque récemment me disait, je ne dors bien que quand je suis en dehors de mon diocèse. C'est-à-dire, donc, ils passent leur temps. Un autre me disait, je passe les 9 dixièmes de mon temps à gérer l'irrationnel. Donc, vous voyez, la vie d'un évêque est très difficile. Donc, tout ça, ils ne le connaissent pas. Et il faut leur expliquer, leur montrer que nous ne sommes pas des terroristes en cagoule qui mordent dès qu'on les approche. Et ce que j'ai pu constater, parce que la crainte d'un évêque français, c'est que s'il fait entrer des gens de l'extérieur, le diocèse va perdre son identité. On peut leur expliquer gentiment qu'aujourd'hui, l'accueil de l'étranger est une valeur. Moi, je me suis aperçu, avec le peu d'expérience que j'ai, hein, que dans le fond, au bout de quelques années, l'évêque s'aperçoit, parce que c'est ce qui compte, que la présence d'un prêtre de notre institut, ou d'un autre, nous ne sommes pas, heureusement d'ailleurs, la seule maison, n'entame en rien l'unité du diocèse. Que nous sommes dans un diocèse, à la disposition de ce diocèse, tel ou tel prêtre, ou plutôt par petite communauté, c'est mieux. Nous sommes à la disposition du diocèse, de l'évêque, parce que là où est l'évêque, là est l'église, et que pour ce qui relève du ministère, ce qui concerne le ministère dans ce diocèse-là, exercé par les prêtres de notre institut, les prêtres relèvent de l'évêque. On ne va pas dire, on est là pour faire un état dans l'état, notre petite réserve d'Indiens à nous, etc. Au contraire, l'œuvre rayonne, l'évêque s'aperçoit qu'il a la paix. Au début, évidemment, il doit faire face à quelques, peut-être, allez, disons gentiment, 68 heures attardées qui vont l'agresser. Mais si nos prêtres sont aimables, gentils, qui s'occupent bien des âmes qui leur sont confiées, tout se passe bien.
Quel est le degré de concession, de compromission que vous êtes obligé de passer avec l'ordinaire ?
Il n'y a pas tellement de compromissions à faire. Il y a simplement à exercer une certaine... Si nous sommes disciples de saint Thomas d'Aquin, eh bien nous cherchons à pratiquer une vertu morale qui est la clé de voûte des autres vertus, qui s'appelle la prudence, qui n'a rien à voir avec la prudence routière, mais qui consiste à proportionner les moyens en vue de la fin. Et je pense que c'est ça qui compte, travailler dans un climat de prudence et de charité, ne pas se précipiter là où il ne faut pas aller, ne pas non plus pavoiser en disant « Regardez, c'est nous les meilleurs », et puis les choses se passent bien. Mais cette ignorance de nos évêques, un jour ou l'autre, il va falloir percer ce mur de l'ignorance. Certains évêques en sont conscients. Celui que nous avons entendu ensemble l'autre jour en était très conscient. Il parle de constellations traditionnelles ou traditionnalistes, et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de nuances. Que tout cela constitue une force. Il me l'avait dit d'ailleurs un jour auparavant. Il m'avait dit, vous savez, j'ai un presbytérium qui n'est pas très facile, mais tôt ou tard, et je leur dis à chaque réunion, mes prêtres devront admettre qu'il faut faire avec vous, que ce n'est plus possible de vous ignorer. Donc, évidemment, il faut gouverner certainement avec tact, et je pense qu'il sait le faire, mais soyons patients, et comme il faut être patient, ne changeons pas. C'est pas parce que nous sommes pas accueillis dans certains endroits qu'il faut se dire, tiens, on va commencer par faire des aménagements, etc. Ne changeons pas, c'est l'avenir. Récemment, notre supérieur, Mgr Vac, rencontrait à Rome Mgr Rangic, et qui est donc le secrétaire de la Congrégation pour le culte divin, et qui lui a dit, tenez bon, parce que de toute façon, cette messe, ils vont être obligés de l'autoriser. C'est la seule façon d'avoir des vocations. Et puis derrière cette liturgie, il y a toute une ecclésiologie.
Ah, alors ça, nous sommes bien d'accord là-dessus. Enfin, vous savez la raison pour laquelle le motu proprio n'est pas encore paru. Non, personne ne sait, non.
Non, dites-nous.
Les révélations de Daniel de Maistre.
Parce que Benoît XVI est un pape, d'abord un peu lent, comme il a décidé d'appeler personnellement tous les évêques français pour les convaincre qu'il n'y avait pas, que c'était pas une affaire d'État, donc ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Mais vous savez, j'ai l'air de plaisanter, je plaisante qu'à moitié, hein. Le pape a décroché son téléphone pour appeler un certain nombre d'évêques français. Alors, sur ce qu'a dit, sur les questions que j'ai lancées comme ça, un peu sur les relations avec les évêques, tous ces problèmes qu'il y a par rapport à ce qu'est l'abbé Jaïr, vous, monsieur l'abbé de Malraix, alors, dans un contexte différent, quel commentaire vous feriez?
J'approuve le fait qu'il y a une sorte d'anxiété chez les évêques français, qui voit arriver nos communautés qui sont souvent mal représentées par des caricatures dans certains médias, etc. Et ils nous voient arriver avec pas mal de vocations. Il faut pas être triomphaliste non plus. Hein. On n'a pas, nos séminaires ne sont pas ultra pleins et c'est pas comparé aux besoins, c'est pas immense. Mais enfin, c'est quand même très bien compte tenu, je dirais, de la raréfaction présente. Mais cette anxiété, je pense qu'elle est certainement plus concentrée en France. Et je le vois avec quelques chiffres. Nous, on a une centaine de cérémonies d'ordination depuis notre fondation en 1988. Ça veut dire qu'il y a 100 fois, il y a un évêque qui a ordonné, soit prêtre, soit aux ordres mineurs, nos candidats dans le monde entier. Eh bien, sur ces 100 cérémonies, il y en a 52, c'est-à-dire plus de la moitié, qui ont été faites par un évêque diocésain dans son propre diocèse. Alors, il faut voir ce que ça signifie. Ça veut dire que dans le monde entier, il y a des évêques responsables pasteurs de leur diocèse qui ont utilisé le rite traditionnel pour ordonner un candidat de la fraternité Saint-Pierre, vraiment dans ce but, avec l'amour du rite. Et ça signifie que vis-à-vis de ses diocésains, de son clergé, il n'a pas craint de manifester ce soutien. Mais c'est vrai que c'est plus en Europe certainement, mais aussi en Amérique, un petit peu en Australie. L'année 2006, par exemple, qui vient de s'écouler, pour ne prendre que les ordinations sacerdotales, nous avons eu 4 cérémonies d'ordination sacerdotale. 3 sur 4 étaient faites par l'évêque diocésain dans son diocèse. Hein. Monseigneur Bruskevitz à Lincoln pour l'Amérique, Monseigneur Wilson à Adélaïde en Australie, l'évêque de Linz, en Autriche, qui a ordonné. Bon, et le quatrième, c'était Edith Grasbal, cardinal Medina. Mais bon, là, c'est autre chose.
Monsieur le secrétaire général, ma question, c'est très intéressant, tout ce que vous dites, c'est des statistiques intéressantes, je ne les ai jamais vues, j'espère que vous laissez des petites copies de vos papiers, c'est très bien. Mais c'était plutôt l'aspect français, parce que il n'y a qu'en France où il y a quand même un nœud gordien, je dirais, un nœud gordien, qui tient à la fois à un certain préjugé épiscopal sur les traditionalistes, alimenté ce préjugé, parce que disait tout à l'heure avec Tanoir aussi, par le fait que les tradis ont aussi un peu vécu en ghetto. Pas tous, mais encore beaucoup. Qui fait qu'ils sont plus vraiment dans l'Église et qu'ils ont un peu perdu les usages ou la façon de sentir, la façon de voir, la façon de s'informer sur ce qui se passe véritablement dans les diocèses. Il y a quand même un petit danger de ghettoisation. Donc je repasse. Alors si vous avez encore un commentaire à faire, faites-le sur ces questions épiscopales.
Spécialement pour la France, je crois que partout où l'évêque a accordé non pas seulement une messe dominicale, mais aussi tous les outils normaux de sanctification, c'est-à-dire le catéchisme, la préparation au sacrement, la possibilité de se faire enterrer, baptiser, etc., marier dans le rite traditionnel, là, les fidèles se sentent vraiment beaucoup plus enfants vis-à-vis d'un pasteur. Du coup, ils ne sont plus, ou beaucoup moins, je pense, sur la défensive, et cette insertion dans le tissu diocésain se passe beaucoup mieux. Donc je crois que si on donne une permission plus large et généreuse, selon ce que voulait Jean-Paul II en 88, eh bien ces tensions s'amenuisent.
Monsieur l'abbé, je vous pose une question, c'est la question à 100 sous, mais je la pose. Et je comprendrais que vous n'y répondrez pas, mais je poserai la même question. Alors non, parce que vous, c'est un peu spécial, l'abbé Sellier, donc vous en foutez, vous avez vos évêques, tout ça, vous êtes tranquille. Bon, mais les autres, ils sont charmants. Et un jour, vous aurez ce problème aussi, hein, d'une manière ou d'une autre. Bon, imaginez qu'un jour, vous receviez maison générale, généralie, je ne sais pas comment on dit, là-bas, bon, coup de téléphone d'un évêque français. Alors écoutez, moi j'ai décidé, je suis convaincu, tout ça, le pape, il a raison. Mes confrères ont déconné en fanfare, si je puis m'exprimer ainsi sur Radio Courtoisie. Puis j'ai une demande dans mon diocèse depuis longtemps, tout ça. Je veux créer une paroisse, je fais une paroisse personnelle pour les gens Saint-Pie-V. Tout compte, mais je veux tout, hein, le catéchisme, la messe, le baptême, la confirmation, tout. Par contre, j'ai pas de prêtre. Donc, Vous, vous en avez. Je vous en prends un. Mais je veux qu'il soit diocésain. Donc je vous demande de l'excardiner et moi je l'incardine tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord pour céder un prêtre à un évêque qui ferait cette demande?
Je vois pas bien quel serait l'avantage pour l'évêque d'avoir un prêtre excardiné de chez nous. Ce qu'on peut faire, et on a commencé de le faire, de même que le DVD de Saint-Pédis, c'est d'apprendre à les prêtres diocésains à célébrer cette messe. Évidemment, c'est pas seulement le rite, c'est tout ce qui va avec, et la doctrine, etc. Donc ça, la Fraternité Saint-Pierre, c'est tout à fait dans nos intentions et notre mission de le faire. Ensuite, je ne vois pas la difficulté, on en a parlé tout à l'heure, à donner un apostolat à un prêtre incardiné dans les sociétés. Après tout, lorsqu'un évêque accueille des dominicains, des jésuites ou des communautés nouvelles, ils ont aussi un supérieur et les choses se passent, je crois, assez tranquillement.
Vous êtes sûr de ça? Vous avez des expériences comme ça en France? Ben, ça se passe facilement.
Regardez à Paris, je crois que c'est l'Emmanuel qui a la paroisse de la Trinité. Oui. Il y a les fraternités monastiques de Jérusalem à Saint-Gervais, si je m'abuse. Enfin, il y a les petits gris peut-être à Boulogne. Oui. Donc, il est.
Et vous, pourquoi vous n'avez pas de paroisse à Paris alors?
Ah, je ne suis pas.
Et que quand vous en avez,
monseigneur 23.
Quand vous en avez une à Lyon, on vous fait des misères et une à Versailles, on commence à vous
répondre. Je crois que ça, à votre question, monsieur Amiche, il faut lire l'interview de monseigneur 23 dans la nef. Là, vous avez tout compris.
Je crois juste pour répondre à votre question, ça relève de cette anxiété que pas mal d'évêques éprouvent en se disant si on leur donne les moyens de travailler sérieusement, on a un peu peur qu'ils prennent trop de place. Et c'est dommage de voir les choses un peu en termes de concurrence alors qu'on sert de bonne foi le même bon Dieu.
Bah écoutez, on va faire une quête auprès des adhérents de Radio Courtoisie qui nous envoient peu de sous. On va acheter du chocolat, des tonnes de chocolat, parce que c'est anti-stress. Et on va en faire une distribution ample, large et généreuse à tous nos seigneurs, les évêques. Monsieur l'abbé Cellier,
juste une petite remarque. Je vois que les évêques, notamment parmi concernant les communautés, demandent que certains fassent des études de droit canonique pour devenir officiel ou juge ecclésiastique, etc. Ben, je vois pas pourquoi ils ne nommeraient pas un prêtre pour aller se former pendant 2 ans, comme ils en envoient à Rome, comme ils en envoient dans les universités, pour faire se former pendant 2 ans, par exemple, à Visegrádbad ou à je ne sais plus où le Cristiano, pour ensuite célébrer la messe traditionnelle dans leur diocèse. S'ils veulent des prêtres de chez eux pour avoir la messe traditionnelle, ils peuvent les faire se former pour voilà.
Mais vous pourriez les ordonner sans qu'ils soient membres de la fraternité?
Même un prêtre déjà ordonné.
Un prêtre déjà ordonné pour qu'il se d'accord.
Moi je
ça s'est produit déjà?
Je connais.
Non. Je
connais un exemple dans une grande ville française où un prêtre a réussi à avoir une messe Saint-Pie-V, etc. Il est allé, il a cherché un collaborateur. Il a trouvé un vieux chanoine qui a accepté de venir le rejoindre. L'évêque a dit, il est hors de question que vous ayez ce collaborateur qui était à la retraite, hein, qui ne changeait rien à personne. Et c'est un prêtre diocésain dans une église diocésaine et qui demandait un vieux chanoine à la retraite.
Ce qui arrive fréquemment, ce sont des prêtres diocésains qui viennent apprendre chez nous à célébrer la messe traditionnelle. Oui.
Ça existe. Oui, ça, et chez vous aussi, alors où...
Oui, des prêtres qui viennent dans la maison. Il y a aussi parfois des séminaristes envoyés par leur ordinaire pour se former chez nous. Bon, c'est assez marginal, mais ça arrive, soit de communauté, soit de diocèse.
Français.
Mais
français. Pas français.
Hein, je crois quand même que ce qu'il
Monsieur
faut dire,
de
que, ce qu'il faut dire, c'est que l'Église ne fera pas l'économie de ces communautés nouvelles que sont les communautés traditionnalistes, parce que à tous les moments de son histoire, lorsqu'il y a eu crise, la structure diocésaine s'effondre, d'où repart le l'arbre ecclésial, il repart à partir de communautés, que ce soit des communautés monastiques au Moyen-Âge, que ce soit des communautés de prêtres au XVIIe siècle, mais à plusieurs reprises, en XIIe, au XIIIe siècle, au XVIIe siècle, ces grands mouvements de reprise, il va bien falloir qu'on connaisse un mouvement de reprise dans l'Église aujourd'hui, ces grands mouvements de reprise sont venus de communautés qui n'étaient pas organiquement liées avec l'évêque, mais qui étaient liées avec l'évêque, dans une complémentarité, dans une mission reçue, etc., mais qui n'était pas liée organiquement. Et c'est ce qui fait un petit peu peur, je dois dire, lorsqu'on lit l'entretien que Mgr 23 a donné à la nef. C'est d'abord la volonté de réduire le mouvement traditionnaliste à ses communautés de prêtres, ce qui n'est absolument pas le cas. Je crois qu'il y a une demande importante dans la mesure où le rite est connu et une demande très variée. Je pense en particulier aux Africains, moi que j'ai bien connus, et aux Africains en France, qui sont extrêmement, je les ai bien connus au Gabon, mais qui sont extrêmement sensibles à la beauté de ce rite. Et je pense que dans des paroisses qui sont placées en milieu, je dirais, de forte immigration, une messe traditionnelle pourrait très bien avoir un impact pastoral considérable. Donc, si vous voulez, déjà, Mgr 23 réduit les communautés traditionnistes à des communautés de prêtres et les oppose en cela aux communautés charismatiques. Si nous parlons des communautés charismatiques, elles sont d'abord et principalement des communautés de laïcs fervents. Il y a aussi des prêtres chez les charismatiques. Comme je le disais à l'instant, cette ferveur favorise l'éclosion de vocations sacerdotales et les soutient. Aujourd'hui, elles sont largement présentes dans le tissu ecclésial français, notamment à Paris. Si nous parlons des communautés traditionalistes, à ce jour, ce sont essentiellement des communautés ou des instituts de prêtres qui sont organisés. Or, bien entendu, les organisations sont surtout des organisations sacerdotales, mais il n'empêche qu'il y a un immense mouvement de laïcs et que le mouvement traditionaliste, il faut le rappeler et le redire, est un mouvement qui, au départ en France, est un mouvement de laïcs essentiellement. Bon, je crois que vous aviez Jean Madiran tout à l'heure. Bon, il peut en témoigner.
Non, je ne l'avais pas, mais de ce qu'il a sacré évêque, votre confrère...
Ah, c'est ça, pardon.
Oui, c'est lié, oui. Ça rejoint des pouvoirs qui ne disposent pas encore tout à fait, enfin bon.
Alors ensuite, l'idée, c'est que le principe de base de l'organisation du ministère sacerdotal dans l'Église, c'est qu'il est constitué autour d'un évêque en vue de la mission. Pas toujours. Il y a des communautés sacerdotales qui ne sont pas constituées autour d'un évêque. Je pense par exemple aux jésuites qui ont quand même fait un bien considérable à l'Église et qui, que je sache, ont compté un certain nombre d'évêques parmi eux, mais n'étaient absolument pas organisés autour d'un évêque. Et toutes les sociétés de prêtres du XVIe et du XVIIe siècle français sont dans ce cas-là. Est-ce que donc on a le droit de dire que nécessairement le principe de base, c'est l'organisation du ministère sacerdotal dans l'Église autour de l'évêque? Non, c'est le fait que c'est bien entendu l'évêque qui donne mission dans son diocèse. Mais l'évêque peut très bien s'entourer de collaborateurs qui ne soient pas directement de son presbytérium, et cela s'est toujours connu, cela s'est toujours vécu dans l'Église. C'est la riche diversité de l'Église. Je crois que là, il y aurait vraiment à avoir avec Mgr 23 une conversation précise pour qu'il explique un petit peu
explicite
son propos qui me semble incomplet.
Il est incomplet, mais il est quand même... Ce qui est intéressant, c'est que ce propos de Mgr 23 a visiblement été imaginé, programmé, réfléchi à destination des traditionalistes, hein, puisqu'il est quand même... il est imprimé dans la Nef, qui est quand même un mensuel
tout tradit, à fait. Quoi, hein. Tout à fait. Mais et donc, si on continue le texte, la condition première pour être associé...
On va pas lire... Attends, parce que ça, on peut refaire une émission pour faire l'analyse de texte de Mgr 23, mais là, peut-être pas ce soir.
Je crois qu'elle est très significative, si vous voulez. C'est-à-dire que la question posée, c'est bien le statut des communautés traditionalistes dans l'Église, et je crois que, en tout cas, on n'a pas le droit, a priori, de dénier à des sociétés de prêtres le droit de travailler en collaboration avec des évêques.
Et si ça fait qu'à moi je ne parle avec deux. Bon. Alors, monsieur l'abbé, je m'excuse, nous allons donner un peu la parole à nos auditeurs, et puis nous avons encore un gros quart d'heure et il faudra terminer. Hein. Et la question que j'aimerais que vous puissiez réfléchir déjà pendant que les questions vont être lues à la queue leu-leu, c'est la question du statut. Quel serait pour vous, prêtre, le statut idéal que vous souhaiteriez pour votre apostolat dans l'église réelle, enfin dans les paroisses, etc. Et ça, c'est une question sous quelle forme alors, paroisse personnelle, administration apostolique, et là aussi, l'opinion de l'abbé Cellier, si, enfin, l'opinion qui sera jamais que l'opinion de ses supérieurs, je suppose, hein, évidemment.
On essayera.
On essayera. Bon, après, quand on jouera enfin, notre partie de cartes, après, ce sera différent. Mais là, voilà, on est obligé de tenir une certaine officialité. Quel serait le statut, selon vous, le statut idéal maintenant sur la base de votre expérience, qui est quand même aux uns et aux autres quand même qui n'est pas d'hier, même si des fraternités sont récentes, mais vous avez quand même du kilomètre au compteur. Quel serait pour vous le statut idéal? Et c'est un peu ce que vous attendez de l'autorité supérieure romaine par rapport à vous. Alors, quelle question d'auditeur?
Une auditrice vous dit, la liturgie, c'est une chose, la formation des curés en est une autre, mais il y a encore un autre problème, la position de l'autel dans l'église.
Oui, ça aussi, mais enfin bon, ça fait partie de la liturgie et ça fait partie d'un ensemble. Ça, c'est peut-être pas le problème le plus complexe.
Que pensez-vous du cas de l'abbé Loiseau qui a dû sortir de la fraternité pour avoir une paroisse à Toulon?
Je ne ferai pas de commentaire et puis j'en demanderai même pas, monsieur l'abbé de Malraix. Si je pourrais en faire, je dirais que c'est. Je suis content pour Loiseau, mais ce n'est pas une solution. La solution ne consiste pas à débaucher, sinon on rentre dans un jeu, puisque peut-être qu'un autre évêque va débaucher Loiseau pour en le payant mieux, pour mettre dans une paroisse et tout, dans l'autre diocèse. Ah, il n'y a plus de fin, quoi. On est rentré dans le monde du capital et dans le monde des transnationales.
L'abbé de Malraix me corrigera si je me trompe, mais j'ai l'impression que l'abbé Loiseau avait déjà la paroisse personnelle et qu'il est parti avec.
Non, il n'y avait pas de paroisse personnelle.
C'est après?
Oui. Oui.
Alors là. La publication de décembre 2006 de Saint-Martin-des-Gaules à Noisy-le-Grand met en garde ses paroissiens contre la proximité de la chapelle de Tournan-en-Brie, desservie par l'Institut du Bon Pasteur, qui est accusée par M. Arnaud de Lassus de profiter du nouveau pontificat pour aborder les choses sous un jour nouveau. La guerre de 1970 n'est pas terminée, dit-il. Le combat de la vérité contre l'erreur n'admet pas d'armistice. Pourquoi? Et pourquoi cette animosité?
Ça. Et ne répondez pas, monsieur l'abbé de Tannouard, je vous prie. Hein. Moi, j'essaye de faire du boulot écuménique et dialoguant. Ici, il y en a qui me cassent la baraque.
Les vocations traditionnelles sont de plus en plus nombreuses grâce aussi aux écoles catholiques réellement libres. Or, celles-ci sont menacées par la République sous couvert de la protection de l'enfance et le seraient encore plus si l'on en croit les déclarations de la candidate socialiste. Qu'en pensez-vous?
Il faut être extrêmement vigilant. Là, c'est une bonne observation. Très, très vigilant, oui.
Vous nous dites qu'il y a beaucoup de vocations dans la tradition, mais je constate que dans les familles traditionnalistes, qui souvent sont composées de nombreux enfants, entre 5 et 10, il arrive qu'aucun n'ait la vocation. Cet avis est partagé par un prêtre de la fraternité Saint-Pierre.
Le mystère du choix du bon Dieu.
C'est le mystère du choix du bon Dieu, c'est pas automatique. C'est pas parce que vous n'allez pas faire des enfants pour un prêtre. Des fois, il peut y avoir un, pouf, vous le perdez, il est prêtre. Enfin, vous le perdez pour la famille et pour la descendance, mais il devient prêtre. Vous pouvez avoir 10 enfants sans avoir 2 prêtres. Enfin, ça, c'est des moyens.
Mais vous pouvez avoir 10 enfants qui soient 10 prêtres.
Et 10 prêtres. Oh, ça, c'est presque connu dans certaines familles. On va arrêter la lecture des messages. Je remercie beaucoup les auditeurs de toute l'attention qu'ils prêtent à cette émission, que moi je trouve intéressante dans son principe.
Moi je voudrais quand même répondre sur Tournan-en-Brie, l'auteur dit pourquoi cette animosité, et là je suis vraiment d'accord avec lui.
Oui, voilà. Bah oui, c'est ça. Bon, moi je comprends pas l'animosité, je trouve ça un peu. Alors. Le statut idéal que vous souhaiteriez, vous avez le droit on a le droit de faire un rêve de temps en temps, je pense que vous avez tous réfléchi à ces questions et ce que vous attendez en fin de compte de l'autorité suprême, parce que c'est quand même en fin de compte tout ça, ce sera le pape qui décidera, hein, ce sera pas la conférence épiscopale des évêques de France. Alors, monsieur l'abbé de Malraix, s'il vous plaît.
Bien, il faut voir ce qui marche. Nous avons plusieurs paroisses personnelles, je crois 7 dans le monde. Pour le moment, aucune en France. Je pense par exemple à celle d'Ottawa qui a fêté ses 10 ans il n'y a pas longtemps et l'archevêque vraiment se félicite justement du fait que toute la gamme des services pastoraux sont octroyés aux paroissiens. Et ça, c'est une excellente chose. Il faut aussi voir de façon peut-être plus générale parce que nos instituts sont quasiment tous internationaux et je pense là à l'administration apostolique Saint-Jean-Marie Vianney à Campos avec Mgr Rifan qui est vraiment, je crois, une chose qui fonctionne bien, où il y a donc un évêque qui a juridiction sur ses prêtres et qui travaille en bonne intelligence avec l'évêque diocésain. Mais ce sont deux choses différentes. Je crois que ce statut-là d'administration apostolique, soit universel, soit limité à quelques territoires, est une chose vraiment qui est pratique et qui pourrait porter beaucoup de fruits.
Et là, il faudrait un évêque. Et là, pour l'instant, il n'y en a pas, vous direz. Là, ça pénisse dans la carte. Mais dans les traditions des traditionnistes, il n'y en a pas, en vérité. Vous n'avez pas d'évêque, ni vous, ni l'IBP, ni l'Institut.
Vous savez, je ne crois pas que le problème soit tellement d'avoir un évêque pour faire les ordinations.
Vous avez, vous avez terminé votre exposé sur la chose idéale que vous attendriez de...
Oui, j'essaye de faire bref, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais oui, je pense que ce serait un bon statut.
Alors, monsieur Labétal, allez-y.
Non, je ne pense pas que le problème soit d'avoir un évêque. Le problème n'est pas un problème de statut, en fait. Parce que, si vous voulez, le statut, en tout cas, 3 sur 4 ici, nous l'avons, et si quelqu'un veut un statut, Rome le lui accorde. Il n'y a aucun problème. Pour ne pas avoir de statut, il faut ne pas l'avoir demandé. Bon, et j'en suis, la preuve vivante.
L'abbé, c'était le statut diocésain.
Non, je parle de statut juridique.
Dans l'Église.
Je crois que du point de vue juridique, on peut difficilement aller plus loin. Et que du point de vue juridique, les facilités qui ont été données par Rome aux divers communautés traditionnalistes sont... très importante. Le problème, c'est qu'il faut que ces facilités soient reconnues sur place par les évêques, qui sont les maîtres de leur diocèse. Je disais tout à l'heure que tous les prêtres d'un diocèse ne sont pas nécessairement des prêtres diocésains, mais l'évêque peut décider que tous les prêtres de son diocèse soient des prêtres diocésains. Ça, c'est sûr. Donc, l'évêque de droit divin, c'est l'institution de l'Église qui veut ça, et cette institution est divine, l'évêque est évidemment le centre de son diocèse. Que faut-il aujourd'hui? Non pas des facilités juridiques supplémentaires, sinon l'autorisation universelle de la messe traditionnelle, qui, ça, je crois, aura une importance, si le motu proprio paraît, il aura une grande importance. Mais ce qu'il faut, c'est plus de confiance et plus de connaissances réciproques. Et il me semble vraiment... que la situation de blocage dans laquelle on se trouve aujourd'hui n'est pas du tout explicable par des données juridiques, qu'elle est explicable par des données malheureusement humaines. Et que ce qu'il faut, c'est du dialogue. Moi, j'ai invité un prêtre de l'archevêché de Paris, au choix, à venir au Centre Saint-Paul pour la semaine de l'unité. Bon, c'est encore trop tôt, mais il me semble que ce genre d'initiative, et je serais ravi d'être invité, moi, dans une paroisse parisienne quelconque, pour un débat contradictoire ou pour une conférence, ce genre d'initiative de fait beaucoup plus pour la communion, concrètement, que des articles de code et de droit.
Merci, monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé Sellier, 2 minutes pour vous, puis ensuite, monsieur l'abbé Jaïr, 2 minutes, et puis malheureusement, notre émission sera finie.
Alors, je dirais qu'effectivement, comme solution provisoire, intermédiaire, un diocèse apostolique, enfin, une administration apostolique mondiale ou je dirais continentale pourrait être intéressante, mais effectivement, c'est un défaut puisque ça ghettoïse, à un moment, il faudra peut-être le casser pour rendre...
L'administration apostolique Saint-Jean-Brivianais, c'est pas ghettoïsé, hein. Il y a une administration apostolique pour le diocèse, et puis ensuite des négociations de l'évêque de l'administration apostolique avec les évêques des autres diocèses quand il y a demande.
Voilà, ce qu'il faut, c'est que la messe traditionnelle ait toute sa place, purement et simplement, dans les diocèses. C'est ça le but.
C'était le point de départ, voilà, nous sommes tous d'accord là-dessus. Monsieur l'abbé Jaïr.
Moi, je serais réservé sur la question d'une superstructure traditionnaliste. Il me semble qu'il ne faut pas vivre dans le rêve, il faut être dans le réel. Ce qui est important, c'est l'unité intérieure à chacune de nos maisons.
Et le dialogue.
Tout royaume divisé contre lui-même périt, hein, c'est comme ça. Donc l'unité intérieure des maisons. Vous parliez tout à l'heure, est-ce que vous accepteriez qu'un prêtre de chez vous soit excardiné? Moi, je dirais, vous allez lui arracher le cœur. Son institut, c'est sa famille spirituelle. Vous ne pouvez pas tout d'un coup jeter quelqu'un en disant, voyez, il y a un évêque qui vous... Bon, s'il était consentant, d'accord, mais on ne peut pas forcer la nature. Donc l'unité intérieure à chaque maison, La vie de charité entre prêtres, c'est le meilleur, la meilleure efficacité apostolique, me semble-t-il. Et chaque maison dans sa spécificité. Je suis réservé sur la question d'une superstructure traditionnelle parce que la messe traditionnelle n'est pas notre monopole à nous dit qu'on appelle prêtre traditionnel ou traditionnaliste.
C'est
le trésor de l'Église.
On n'est que des instruments.
Il faut souhaiter que demain il soit ouvert au plus grand nombre de prêtres possible. Et je pense que vous disiez il est permis de rêver, mais dans le fond c'est vrai que c'est beau de rêver dans la vie, et si le bon Dieu permet certains rêves, c'est certainement pour qu'ils soient réalisés. C'est Sainte Thérèse de Lisieux qui disait ça, mais nous vivons dans le réel, et en réalité moi je constate que les choses, nous trouvons des solutions au cas par cas. Il faut accepter de s'adapter à des situations très diverses, et c'est du cas par cas. Mais le bon Dieu a plusieurs tours dans son sac et il faut lui faire confiance.
Merci, monsieur l'abbé. Je crois que vous avez à peu près... attendez, vous avez synthétisé la chose en disant que oui, c'est pas la propriété de tel ou tel, mais c'est un trésor commun de l'Église. À ce point, elle est universelle, elle est pour tout le monde, et elle veut être connue, comme tous les trésors, ils sont faits pour être montrés, pas pour être cachés. Bon. Mais vous avez été tous les uns les autres, je dis bien tous, les uns les autres, toute fraternité confondue, comme c'était quand même les gardiens de ce trésor pendant très très longtemps, vous l'avez entretenu... laissé en marche alors que tellement d'autres auraient souhaité qu'il disparût. Alors c'est pour cela que je vous remercie de votre présence et de tout ce que vous avez fait pour la liturgie Trésor de l'Église. Un message d'un auditeur et on en arrête.
À Sainte-Marie de Fontenelle, sur Haute-Seine, la messe traditionnelle est dite par les prêtres choisis par l'évêque de Nanterre.
Oui.
Mais la formation et leur élévation d'esprit est assez déplorable dans leurs sermons, même s'ils sont de bonne volonté.
Ne terminons pas sur quelque chose de triste. Voilà, il y aura toujours
dite,
des...
La messe est dite.
Moi, je crois au contraire que ces prêtres... qui connaissent, qui découvrent la messe traditionnelle en sont très heureux.
Ils en sont très heureux.
J'ai quelques échos.
On continuera alors le faire.
Il y a de vraies transformations intérieures.
Et on en a d'autres. Vous êtes content d'avoir participé à cette émission, monsieur l'abbé?
Merci beaucoup de nous avoir invités.
Vous aussi, monsieur l'abbé Seyé, qui est un vieil habitué de cette.
Voilà, je remercie vous tous les auditeurs.
C'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Et vous aussi.
On est toujours heureux de venir chez vous.
Alors, tout le monde est heureux. On remercie les auditeurs. On se dit au 7 février. D'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, dirigé cette semaine par Daniel Amiche avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 17 janvier 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 18 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30.